Tu vois, t'es meilleur que moi déjà.
Avec Louis Seb, Caro et Jeff, on parle de technologie, entrepreneurship, de musique, les technopreneurs.
Non,
les technopreneurs. Pour ceux qui sont un tantinet geek. Les technopreneurs. Les technopreneurs.
Bonsoir, bienvenue à CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Louis Seb à la barre de l'émission Les Technopreneurs, en ce mardi 7 février 2017, en direct des studios de Lévis. Et puis cette semaine, croyez-vous que j'ai quelqu'un avec moi en studio là? La semaine passée, Caro avait mal à la tête, elle s'est couchée, elle n'a pas pu venir. La semaine d'avant, je pense que c'était déjà prévu. Mon ami David Chabot est venu faire un tour. Fait que la semaine passée, ouais, ça valait mieux si j'arrête la prochaine tune. Désolé, un petit oubli. Donc, je disais donc que la semaine dernière, j'étais accompagné de mes amis les criquets. Est-ce qu'ils sont là un peu cette semaine? Ah oui, mais non, en fait, je vais les taire tout de suite, alors... Sans plus tarder, je vais vous présenter mon co-animateur cette semaine, Monsieur Jean-François Brebillon.
Eh oui!
Allô, bienvenue dans l'émission pour la première fois cette année.
Mais oui, bonne année.
Bon retour, bonne année, on se le dit plus normalement, mais pour toi c'est la première fois que tu le dis live en ondes.
Mais oui, bonne année à tous.
Hier, dans les dernières semaines, on a pu t'entendre en différé avec le live que tu as enregistré. Puis une fois que tu as appelé aussi, quand on a testé le nouveau téléphone ici, qu'on peut maintenant avoir 8 lignes en même temps, je sais pas trop. Fait que, bienvenue. Et quoi de neuf depuis tout ce temps?
Tellement de choses.
Ouais, hein, t'es un homme occupé.
Ah ben écoute, tout le temps.
Les choses vont bien.
Gros début d'année. C'est sûr que on choisit les priorités, même si j'ai trouvé ça un petit peu difficile de pas revenir d'ici un mois. Mais
ouais, mais là j'ai vu dans le planning des prochaines semaines que tu vas être là, je pense, à un moment donné. Une ou deux absences dans les prochaines semaines. Je pense que mars-avril, t'es là comme aux 8 semaines en ligne. Donc
exactement.
Bien.
Je suis de retour.
Super. Parce qu'il manquait un peu de techno, là. Je me débrouille bien.
Oui, mais t'en fais quand même, là.
Mais tu es le maître Jedi de la technologie.
Le maître Jedi de la technologie. Bon, ben, fait que c'est ça. Je vais essayer de ramener cette partie-là.
C'est correct. Bon, pour te tenir au courant de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, on a continué d'avoir des gens de Face au Dragon du concours.
Certainement.
Dont la date s'en vient à grands pas. C'est à la fin mars que le tout aura lieu, si je me souviens bien, le 23. Je vais vérifier tantôt mes notes. Mais on a reçu, il y a quelques semaines, on a commencé avec Marianne Roberge de Coeva, qui est dragonne pour le concours. Par la suite, on a reçu les jeunes Samuel et Nathan qui sont venus braver la température de ce soir-là. On sait que c'était la tempête du siècle qui est annoncée, qu'on a eu une bonne pluie.
Je vous ai écouté une partie de la
soirée. Ça a été un petit show spécial un peu. Il y a eu une coupure de courant ici. Il a fallu que je rallume une station de radio. En tout cas, on a réussi avec une chance que le directeur général et son adjoint étaient pas trop loin au cellulaire pour nous donner un coup de main. Merci les boys. On voit qu'à CJMD, on est bien encadré.
Bon, c'est clair.
Ça a bien été. Donc, c'est ça, on a fait un show express. Je pense que cette fois-là, j'ai fait 25% du contenu préparé. Le reste avec Monsieur Chabot qui nous avait parlé justement de la faiblesse de l'Auto-Québec.
Feu, ouais.
Il avait écrit justement un post sur le Huffington Post à propos de l'Auto-Québec, sa plateforme désuète, et puis ça l'a brassé
dans
le bureau. Le lundi matin, les gens de chez l'Auto-Québec, sur le bord de la machine à café, qui, hop, tout d'un coup, quelque chose qui se passe, il faut réagir. J'étais bien content de l'avoir comme co-animateur cette fois-là, ça faisait du beau matériel à discuter, c'était très intéressant. D'ailleurs, David risque de revenir quand il y aura deux absences prévues, la semaine passée. C'était un beau défi pour moi, c'était la première fois que j'étais seul. Seul
Comment
au complet,
t'as trouvé ça?
J'ai bien survécu. Mes deux invités ont décidé de jouer le jeu de co-animer la deuxième partie du spectacle. Donc, pas du spectacle, mais du show de l'émission. Donc, ça a été bien. Mais à la fin, j'étais vraiment seul. Je passais mon bloc de musique et j'ai réussi à avoir quelqu'un qui appelle. Je sais pas si t'as eu la chance d'écouter le podcast.
Non, pas
mais
encore.
J'ai quelqu'un qui a appelé à la fin pour répondre à mon quiz rock que j'ai improvisé. Puis,
ouais. Tu t'es blonde?
Non, c'est quelqu'un que je connais pas du tout. C'est ça.
Ouais.
C'est pas ma blonde, c'est pas ton père, c'est pas le.
C'est pas notre deux auditeurs.
Non, c'était un ami d'un des invités de William qui est en début d'émission.
Ah, c'est cool.
Donc, c'était un petit chum qui a appelé, puis, il pouvait gagner une paire de billets pour Lévis, Ville-du-Roc. Il est pas venu la chercher. Fait que, pouette. Il a appelé pour rien, mais il a appelé. je l'ai trouvé courageux.
Au moins, il a participé.
C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Donc, la semaine dernière, on recevait les ambassadeurs du concours, Anne-Marie et puis William, justement, qui nous ont parlé de leur rôle qui va plus se jouer là, à partir des présentations au Dragon. Donc, eux vont aller faire un petit tour, voir les jeunes avant leur projet pour un peu leur dire qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passera pas, ou en tout cas, comment bien les préparer. Et puis, cette semaine, ben on revient dans le filon Dragon. Donc, c'est le concours Face au Dragon. Et ce soir, on reçoit avec nous un dragon. Attention. Sortez votre bouclier, il crache du feu. Samuel Saint-Yves-Durand, bienvenue dans les Technopreneurs.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Donc, toi, tu t'impliques dans Face au Dragon cette année pour la deuxième année qu'on parlait tantôt?
Oui, tout à fait. Deuxième année d'implication dans le concours Face au Dragon. Vraiment un beau concours, là. C'est tellement motivant, c'est tellement stimulant de faire partie de cette équipe-là. C'est génial, là. C'est un plaisir pour moi d'être là.
Mais c'est ça. Avant de parler de Face au Dragon, on va faire une petite historique de toi. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'amène jusqu'à, justement, tes professeurs en sciences comptables à l'UQAR, c'est ça, t'es comptable professionnel agréé. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'impliquer face au Dragon, ton background un peu?
Oui, ben tout à fait. T'as très bien résumé la situation. Alors, je suis effectivement professeur en sciences comptables à l'UQAR, spécialisé en comptabilité de gestion, donc un sujet palpitant pour la plupart des gens qui nous écoutent, j'en doute pas. Oui, tout à fait. Si on fait un bref historique, je suis comptable professionnel agréé. J'ai travaillé en financement agricole au début de ma carrière. Là, mon premier stage, en fait, était en financement agricole. J'ai rapidement évolué au sein des cabinets comptables. J'ai travaillé pour une grande firme comptable, Deloitte, pour ne pas la nommer, pendant 5 ans. C'est là où j'ai fait, je dirais, mes classes en tant que comptable. Excellente école, soit dit en passant. J'en garde un beau souvenir. J'ai eu une superbe opportunité ici à Lévis pour devenir professeur en comptabilité de gestion. Auparavant, j'avais déjà été chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis, je vous dirais, plus ou moins 8 ans, je m'implique de près ou de loin là, dans l'éducation, dans des cours. Même en tant qu'étudiant, lorsque j'ai fait ma maîtrise, j'étais auxiliaire à l'enseignement, à la recherche. J'ai donné des charges de cours pour aboutir finalement comme professeur. C'est ma troisième année, j'entends ma quatrième année cette année dans cette superbe gang qui est l'UQAR Campus de Lévis, une très belle université et franchement qui peut se mesurer à n'importe quelle grande université au Québec et même à l'échelle nationale.
Donc, t'étais prédestiné à l'enseignement. C'était déjà ça que tu t'alignais pour faire quand tu as fait tes études dans le milieu de la comptabilité ou c'est arrivé par après?
Écoute, c'est un mariage naturel, curieux hasard et mariage naturel. J'étais pas nécessairement prédestiné à m'en aller dans l'enseignement. C'est vraiment une passion qui s'est développée. Lorsque j'étais en cabinet comptable, j'ai participé, je donnais quelques formations là pour les employés. Et c'est une piqûre, c'est un milieu qui est tellement qui est tellement stimulant. On voit souvent le cours universitaire, c'est un peu la pointe du iceberg. En fait, comme professeur, c'est le fun parce qu'on a à peu près le meilleur de tous les mondes.
Ouais, il y a de la recherche, il y a du travail d'équipe, tout ça. Là.
Oui, recherche qui est un volet très important et souvent obscur de la tâche d'un professeur. Vraiment. Et c'est super intéressant. On apprend tous les jours. On devient, je vous dirais, quasiment une meilleure personne à tous les jours parce qu'on apprend, on apprend, on apprend. Ça en devient une drogue. Et il y a un volet aussi très intéressant qui est le service à la collectivité. C'est ce que je fais présentement en m'impliquant au Dragon. C'est bien beau d'être à l'université, mais il faut pas que ça demeure un vase clos. Ce qui se passe à l'université, il faut le faire sortir. Il faut justement aller voir les gens. Si je suis professeur d'université, c'est pour faire bon, idéalement un monde meilleur. Et je pense que c'est justement en m'impliquant dans la collectivité, en redonnant un peu à la collectivité de ce que l'université peut donner en termes de, je vous dirais, en termes de ressources, mais également, c'est à deux directions. On apprend tellement du milieu dans lequel on est. Et donc, si on veut faire avancer le milieu, il faut le comprendre et puis il faut travailler avec les gens aussi.
Donc aussi, toi, d'apprendre, mais aussi d'enseigner, c'est de redonner ton apprentissage à des élèves. J'imagine que ça te motive beaucoup dans la boucle.
Tout à fait. C'est à double sens, en fait. J'ai la chance et même l'opportunité d'enseigner majoritairement des étudiants de deuxième cycle ces temps-ci. Et c'est très motivant parce que tout est au niveau des discussions qu'on a. Oui, ils sont là pour acquérir des connaissances. Ils sont là pour se préparer dans un parcours professionnel. Je pense notamment à mes étudiants au DES en sciences comptables, où notre but, c'est de les préparer à leur fameux examen des CPA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un examen qui dure 3 jours, qui est fait à la grandeur du Canada. Même examen pour tout le monde. Très stressant pour nos étudiants. Donc, beaucoup de préparation. Mais nos étudiants arrivent avec un bagage de connaissances, d'expériences. Ils partagent. Je pense que tout le monde apprend. Le professeur aussi se doit d'apprendre de ce bagage d'expérience-là, se doit d'apprendre de ses étudiants. Et les étudiants aussi, entre eux, ils ont beaucoup de partage. Je trouve ça magnifique, là.
Dis-moi, t'as quel âge, au juste?
Écoute, demeure une question tabou dans l'autre sens. j'aurais tendance à dire, écoutez, j'ai 29 ans. Donc, j'ai l'opportunité, je vous dirais, la chance.
Ben moi, je me disais, la barbe, je suis certain qu'il a l'air plus jeune encore.
T'as 29 ans?
Sans la barbe, je me fais effectivement demander mes cartes lorsque je vais à la Société des alcools chercher du vin. Ça m'arrive.
Oui. En faisant la recherche pour trouver sa photo, j'ai sur son profil LinkedIn, mais dans Google Images, j'ai trouvé une photo de toi sans barbe, mais en effet, t'as l'air...
Mais ça date, cette photo-là.
Oui, en effet.
Est-ce que c'est quelque chose... parce que, tu sais, c'est quand même impressionnant de à 29 ans, là, d'avoir un poste que t'as, là, honnêtement, là, c'est quelque chose, tu sais, de prestigieux quand même, là. Mais c'est-tu quelque chose que on te fait remarquer parmi tes collègues ou... Parce que, tu sais, moi, l'image que j'ai de l'université... Elle est pas forcément belle, là. Mais c'est parce que j'ai pas été non plus dans des
T'as pas des bonnes références.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai été en cinéma à l'Université Laval. Fait que, ça, on a regardé plutôt des films on a appris quelque chose, là. Mais, dans tes collègues de travail ou dans même des collègues d'autres universités, t'es-tu plus jeune ou comment, c'est quoi?
Écoute, sans détourner la question, je te dirais que t'aurais dû venir à l'UQAR. Je suis sûr que t'aurais trippé sur ton parcours universitaire. Non, c'était juste pour commencer avec ton premier volet. Deuxième volet. Écoute, oui et non. Dans un sens, être jeune et être professeur à l'université, oui, c'est difficile parce que je peux littéralement m'asseoir dans la classe et me fondre à la masse.
Ouais, ouais.
J'ai très souvent des étudiants qui sont plus vieux que moi. J'enseigne au MBA. C'est des gens qui ont déjà une expérience de travail.
Ou qui, des fois, qui reviennent sur les bancs de l'école pour...
C'est ça, c'est pas nécessairement des jeunes qui sortent du
bac. Non, exactement.
Il y en a, oui, mais il y en a qui font retour aux études après quelques années professionnelles.
Tout à fait. Alors, mais j'ai l'opportunité d'avoir eu... C'est très humblement énormément d'expériences diversifiées dans le marché du travail. Ça m'a permis de grandir très rapidement moi-même en tant que personne, puis en tant que professionnel. D'un autre côté, je suis pas le plus jeune. J'ai certains collègues dans d'autres constituantes du réseau qui sont plus jeunes que moi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le dynamisme que ça peut apporter.
Certain. Oh oui, mais écoute, moi je suis pour. Hein. Je te dis tout de suite. Moi, le fait que je trouve, moi je donne de la formation aussi. Puis c'est vrai, si je compare à la France, jamais tu verrais quelqu'un de moins de 45 ans enseigner ni à l'université, ni aux professionnels, ni dans des écoles, parce que dans certains pays, l'ancienneté qui amène l'enseignement. Puis moi, pourquoi je trouve ça impressionnant? Parce que je suis exactement dans ma situation où j'enseigne pas à l'université, mais par contre, c'est vrai qu'à mon âge aussi, et je fais ça maintenant depuis quasiment 6 ans, là, quand je parle de ça à mes amis en France, ils font quoi, t'es prof? C'est n'importe quoi, là. Tu sais, j'enseigne aussi à des gens. Fait que c'est ça que je trouve bien. Puis je suis d'accord avec toi que ça change, ça amène du dynamisme. Puis moi, je pense que les gens apprécient aussi d'avoir un contact avec toi parce qu'ils doivent se dire, ben, finalement, il n'est pas là uniquement justement pour s'encrouter ici. Là. Il est là pour faire avancer des choses.
Ben, ce qui est le fun, c'est que je suis passé par le parcours par lequel mes étudiants passent il y a très peu de temps.
Oui, c'est ça. Je
comprends vraiment par où ils passent. Mm. Et je pense que ça m'aide aussi à mieux les aider, à mieux comprendre aussi leur réalité, leur stress, leurs angoisses, leurs inquiétudes. Puis ce qui est important aussi de dénoter, c'est que je suis pas seul là-dedans. Donc oui, j'ai un certain bagage d'expérience moi-même comme personne qui est relativement limitée due à mon âge. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on compte sur une équipe de travail. C'est pas un seul professeur. Je pense justement au cours où j'enseigne au MBA, où si je ne m'abuse, on est le jeune poulain avec la doyenne de l'université qui sont sur le même cours. C'est un pool qui est très intéressant pour les étudiants. Donc, je pense que j'arrive avec des connaissances un peu plus récentes sur le marché, donc des connaissances très, très fraîches. Et ma collègue qui a une expérience incroyable, je pense que c'est une richesse justement pour nos étudiants d'avoir une diversité d'âge, d'expérience et un peu un
bon non, c'est clair, ils ont le meilleur des deux mondes, puis ça, c'est parfait, ça.
Oui, vraiment. On va en venir un peu face au dragon, tranquillement pas vite. Là, l'enseignement, c'est bien intéressant, mais on a un beau concours qui s'en vient prochainement. Et puis, comment c'est arrivé face au dragon, toi, dans ta vie? Comment tu en as entendu parler? J'imagine que c'est par Lucar, mais comment... C'est ça que j'ai demandé aux jeunes. C'est-tu une affiche dans un babillard? C'est-tu un mémo au professeur? Comment que face au dragon, tu en as entendu parler?
Ben c'est un collègue, justement, quand je vous parlais, on travaille beaucoup ensemble à Lucar. C'est un collègue, Yann Castonguay, qui est très impliqué au niveau du programme d'entrepreneuriat à Lucar, qui m'a parlé du concours et qui m'a dit « Hey, t'as-tu le goût de devenir dragon? Me semble que ça te ressemble. Me semble que tu triperais. Hey, viens avec moi, puis on va siéger là-dessus. » Il m'a parlé brièvement du concours. Après, je pense, 3 ou 4 phrases, j'étais convaincu. Je lui ai dit, regarde, perds pas ton temps. C'est sûr que je viens, c'est vraiment trippant comme concours. On connaît tous l'émission Dans l'œil du dragon.
Bien sûr.
Puis c'est que là, on a l'opportunité de prendre ce concept-là, entre guillemets, là, c'est pas à fait le même concept.
Non, c'est inspiré, là.
Mais on prend ce concept-là.
Disons qu'on donne pas notre argent.
Ouais, c'est ça. La grosse différence, c'est ça.
Premièrement, on donne pas notre argent. Sauf, écoutez, à la foire, il y a tellement de beaux projets que ça finit par... Faut se faire un budget foire.
J'ai acheté 40 pièces de Lego l'année dernière.
Moi, j'ai acheté une lampe. Elle était incroyable. Les gars faisaient des lampes à partir de pièces de véhicules.
Oui, des phares qu'ils récupéraient. Là, puis, c'est vrai. J'avais trouvé ça super bien fait, ça, effectivement.
C'est génial, ça. Ouais. Font, écoutez, c'était super. Comme j'ai dit aux gars, c'est le genre d'affaires que tu te promènes. Moi, je me rappelle d'avoir vu des items semblables. Là, je me promenais à New York dans des galeries d'art. Puis tu voyais ça, puis ça se vendait 2-3 000 $. Puis c'était beau. Hey, écoute, les gars faisaient ça, puis ils trippaient. Moi, j'étais un gars, fait que je trippe char. Puis c'est pas un commentaire sexiste ici. Là, c'est que depuis que je suis tout petit, j'adore les autos. Là, quand j'ai vu une lampe avec des pièces d'auto, moi, ça c'est venu me chercher.
C'est
là.
Venu chercher le petit gars en dedans de toi.
Et c'est venu chercher le côté féminin avec la décoration.
Exactement. c'est comme si on veut vraiment rentrer dans les clichés, alors meilleur des deux mondes.
On n'ira pas dans cet angle-là.
Bon, on n'ira pas là-dedans, ça peut être un terrain
glissant. Mais c'est vrai, je m'en rappelle de ces produits-là, ça avait l'air vraiment bien fait. Là. Mais de toute façon, moi, c'est ça que je trouve trippant dans ce projet-là de Dragon, c'est que on découvre aussi des jeunes qui sont qui sortent de l'anonymat aussi, tu sais, de l'anonymat de l'école secondaire que
oui, qui tous, font là, quelque chose en dehors de leur
on a
cours.
Tous vécu. Et je pense que c'est surtout ça, c'est que moi je me rends compte aussi qu'en Amérique du Nord là, t'as beaucoup de cases dans lesquelles les gens sont soit des sportifs, soit des scientifiques, soit des théâtreux, soit des machins. Bon, ouais. Et t'as des gens qui passent à travers tout ça, qui sont ni l'un ni l'autre. Et ce que j'ai pu remarquer moi dans les dernières années, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui en fait sont ni sportifs ou très sportifs, sont ni artistiques, sont ni scientifiques, mais par contre, ils ont l'esprit de redonner, de partager, puis on se rend compte que c'est surtout ça qui est trippant, c'est que c'est des gens finalement qui sont pas forcément jugés à leur juste valeur au secondaire, mais on se rend compte que plus tard, ça va être des gens qui vont exploser dans leur business ou dans leurs affaires parce que la vraie valeur du travail, elle est là, finalement.
Puis même, je te dirais plus que ça. Oui, c'est des gens qui vont vouloir redonner, mais encore plus, c'est des fois, c'est des tripeux, c'est des sportifs, mais qui identifient un besoin.
Oui, oui,
t'as vraiment toutes sortes. Je pense que c'est ça qui est le fun avec l'entrepreneuriat, c'est que ça regroupe à peu près tout le monde qui a une idée novatrice pour un peu... Je vais y aller avec une phrase cliché un peu, mais aider son prochain. Bon, pour certains, c'est faire de l'argent, là, mais on va y aller avec une phrase pour répondre à un besoin. Donc, le but, c'est vraiment de répondre à un besoin. Puis l'entrepreneuriat, c'est la beauté de ça, c'est que c'est multidisciplinaire. Puis quel beau mot qu'on entend partout présentement, la multidisciplinarité. Mais je pense que c'est ce qui est en vogue. On peut pas... J'ai parlé tantôt, je suis comptable, je fais de la recherche, là. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, est-ce qu'il est en train de chercher des nouveaux coûts, des nouveaux revenus? T'sais, qu'est-ce que tu fais comme recherche en comptabilité? Ben, c'est justement...
Je recherche des sous.
Ben, en comptabilité, tu peux très, très bien t'arrimer à des projets de recherche. Par exemple, un projet de recherche en santé. On veut fonder un nouveau projet en santé. On pense à mettre sur pied peut-être un nouveau médicament.
Mais pour l'optimisation.
Oui, est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça? Ou plus que ça, dans le réseau, on entend beaucoup parler des coupures dans le réseau santé, services sociaux. Mais comment faire pour que le patient ne soit pas perdant là-dedans? Bon, ben, tu sais, je veux pas partir avec un débat là-dessus, mais je pense que la multidisciplinarité, c'est ça qui est fun. Puis pour revenir à l'entrepreneuriat, c'est multidisciplinaire.
Totalement.
Donc, c'est ça qui est le fun.
Et toi, quand tu évalues au niveau du jury, là, dans les expériences que tu as pu avoir dans les dernières années, c'est... Est-ce que tu sens que c'est plus ton œil technique qui va évaluer ou bien c'est vraiment ton cœur d'enfant là? Tu sais, c'est vraiment l'œil plus humain qui fait comme « Ah, ça, c'est trippant là. »
L'œil comptable.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a... Il y en a un qui prend plus le dessus là quand tu vois ces projets-là. Là.
Je pense que je veux le beurre et l'argent du beurre. en réalité, ça prend un projet... T'sais, qui t'allume. T'sais, faut vraiment que ça vienne te chercher à quelque part. Faut que ça soulève des passions chez toi. Faut que tu fasses « Wow, quel beau projet! J'ai le goût d'embarquer là-dedans. » Il faut que le projet soit beau, soit le fun. Faut qu'il vienne te chercher. Mais c'est pas juste ça. T'sais, ça prend pas juste un beau projet. Ça prend un projet qui est bien monté. Ça prend un projet qui, au niveau technique aussi, il va être quand même fort, il va être solide. Donc ça prend un peu de tout. Malheureusement, il y a pas, je dirais pas qu'il y en a un qui prime plus que l'autre. Ça prend vraiment le package deal en bon français.
Oui, effectivement.
Oui, pour justement, merde, j'ai perdu mon idée. Désolé.
On
ne
dit pas merde à la radio.
Oh non, on ne le dit pas. Mais pourquoi tu le dis? Ah, désolé.
Ouais,
c'est vraiment un blanc là. Pour revenir au concours, donc jury, j'ai vraiment perdu mon idée.
D'accord, Louis-Sébastien. Vas-y. Donc je vais reprendre le contrôle de cette émission, étant donné que un mois de mon absence s'est rendu n'importe quoi.
C'est vrai que je l'accepte.
Elle s'ennuyait trop.
Ah oui, oui, ça doit être ça.
Je te regardais, je pensais t'allais embrayer de quoi, puis j'ai perdu mon.
Ouais.
Vas-y.
Est-ce que si là il y a sûrement des personnes là, qui ont déposé leur projet, qui nous écoutent là. C'est quoi les éléments, selon toi, d'une présentation? Disons qu'on y va sur la présentation qu'il ferait, là. C'est quoi les éléments qui vont vraiment attirer ton attention plus qu'un autre? Mis à part ce que tu viens de dire sur la structure, tout ça, mais c'est quoi qui fait vraiment le déclic pour toi qui, tu fais comme, waouh, OK, là, on jase, là.
Je dirais que c'est la base en entrepreneuriat, l'identification du besoin. Est-ce que la personne a été capable d'identifier un besoin? Est-ce que son projet répond à un besoin en tant que tel? Toute cette démarche-là d'identification du besoin, selon moi, c'est ce qui est le plus important là, en entrepreneuriat.
T'as-tu retrouvé ton idée?
Non, je suis vraiment excuse. J'ai eu un petit bug technique en même temps, fait que j'ai comme voulu repédaler là-dessus, okay. Fait que ça arrive des fois.
Dans le cadre de Dragon, là, moi, j'ai pu avoir dans les deux dernières années des différents projets, cégep, secondaire, tout ça. C'est sûr que, tu sais, je sais pas ce que t'en penses là-dedans, là, mais il y a des projets, comme là, bah, t'avais reçu aussi le mois RH, puis tu sais, des projets universitaires qui sont plus des projets de courte durée, là. Comment tu fais la différence, toi, dans l'évaluation de ces projets-là? Tu sais, entre un projet qui est, par exemple, innovant puis qui a un énorme potentiel de devenir quelque chose de concret dans la réalité, et un projet universitaire ou pas, ou même secondaire, qui est plutôt un petit projet qui a une finalité sur 3 semaines. T'sais. Comment tu fais la... Honnêtement, ça a été ma difficulté en tant que jury. C'était ça. Ça a été d'évaluer est-ce qu'il y a autant de potentiel entrepreneurial dans un projet qui a 3 semaines de vie ou un projet qui peut devenir le futur, peut-être pas le futur Apple, là, mais tu sais, un truc qui est à gros déploiement, quoi. Comment tu fais cette différence-là?
Ben, tu pourras compléter, si tu veux. Personnellement, moi, il y a le côté pérennité que je veux. Donc, oui, peut-être que le projet a 3 semaines. T'sais, parlons du mois RH, oui, là, oui. Qui est un projet à relativement courte durée. Premier aspect, est-ce que c'est possible de prendre ce projet-là puis de le répéter l'année prochaine? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de durable par rapport à ça? Deuxièmement, les impacts. Quels sont les impacts dans la collectivité? Quels sont les impacts du projet? Pour moi, c'est ce qui est très important également.
Parfait. Donc, non, mais c'est ça, parce que c'est toujours difficile, moi, dans ce temps-là, de me dire... On s'entend qu'il n'y en a pas un meilleur que d'autres, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chercher, peut-être par expérience aussi de la télévision ou quoi, d'aller chercher des trucs plus croustillants, puis plus punchés. Puis, moi, je me rappelle, il y a 2 ans, là, il y avait des projets, écoute, et puis j'en dénigre aucun, là. D'ailleurs, je ne donnerai pas de nom, mais
dans le même, pas de name dropping.
Dans le même comité, dans la même rencontre, on avait des gens qui, bon, ok, on veut organiser ça, puis on était comme pas trop sûrs, puis, mais tu sais, ça se tenait. Puis à côté, t'en as un qui invente un truc, là, mais que tout le monde est sur le cul, puis tout le monde fait comme...
Ça se tient pas, là.
C'est ça, tu sais. Donc, moi, c'est souvent ça que je trouve difficile pour eux aussi. C'est de mais en fait, c'est comme dans les affaires aussi, là. C'est que c'était des trucs qui sont vraiment intenses, hyper innovants. Puis c'était des trucs qui, finalement, sont standards, entre guillemets, mais qu'ils ont quand même mis des efforts, puis qu'ils ont quand même mis de l'énergie là-dedans. Fait que c'est toujours cette balance-là, moi, je trouve difficile de juger, parce qu'on se dit... Après tout, ils ont fait quand même l'effort de s'inscrire puis de participer aussi. Là. Fait que...
Puis d'où, je dirais, la principale différence par rapport à l'émission Dans l'œil du dragon. Dans l'œil du dragon, c'est des investisseurs, ça nous prend un rendement, ça nous prend quelque chose à... concret à long terme.
Un argument.
Un retour sur l'investissement, ils veulent voir aussi, pas juste aider, mais il faut que ça vaille la peine. Ici, tandis que là, il faut juste évaluer le potentiel entrepreneurial, faire « OK, go ».
Puis ici, ce qui est le fun, c'est vraiment, c'est dans un point de vue un peu plus, je dirais, pédagogique. Dans le sens que on a des entrepreneurs en devenir. Il y en a certains qui ont vraiment une entreprise, c'est vraiment, c'est vrai, puis ils sont sur le marché, mais ce sont des entrepreneurs en devenir. Donc, notre but aussi, à quelque part, c'est de les aider dans ce cheminement entrepreneurial-là pour éventuellement, le même pitch qu'ils nous font, ils vont aller le faire à des banquiers, ils vont aller le faire à des investisseurs, à des partenaires potentiels. Donc, notre importance là-dedans, c'est vraiment de les accompagner. Et justement, c'est pas nécessairement un concours où on s'inscrit, puis automatiquement, on a une bourse parce qu'on s'est inscrit. C'est vraiment un concours où il faut être ouvert aussi aux commentaires, à la critique. Et c'est l'objectif de ce concours-là. Et c'est pas des critiques, je vous dirais, c'est pas comme au dragon, là. Je m'assois pas dans mon siège, puis je le ramasse, puis je dis ton projet, c'est nul. C'est justement d'aider les gens à apprendre et à cheminer par rapport à ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, oui, il y a des programmes d'entrepreneuriat un peu partout dans les écoles. On en a même un excellent, Lucar Lévy. Il fallait que je le plug un peu.
Ben oui.
C'est vrai qu'il est excellent, c'est vrai. Mais,
c'est l'Université du Québec à Rimouski, Campus Lévy.
Campus Lévy, exactement.
Ça, là.
Et je pense que le Campus de Lévy est plus gros que celui à Rimouski.
Tout à fait. Donc, l'élève a dépassé le maître, peut-être.
Ouais,
mais oui, notre campus, ben, c'est sûr qu'on est plus
c'est
près
un beau
de...
campus. Moi, j'ai fait 2-3 semaines de cours. Puis après ça, ben là, je me suis
rendu compte. T'avais 3 semaines de cours à l'UQAM?
Oui, je voulais faire un certificat en marketing. Je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. Ben, ma business commençait. Je dois avoir le temps un peu. Finalement, non.
C'est une belle place. Des beaux programmes. On peut t'arranger de quoi, là? Tu viendras.
T'as vu, il est bon vendeur.
Je t'en parlerai hors d'onde. Tu vas voir, moi, j'ai un autre plan de match.
Une grande université de petite taille. Merci. Alors, on salue nos collègues de l'UQAR ici, là.
Non, puis on est chanceux quand même d'avoir une université à Lévis.
Ben oui. Jean Garon en parlait, ancien maire de Lévis. Il parlait d'université ici. Le monde le traitait de fou. Regarde. Elle est là.
Non, effectivement.
Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, encore une fois, je veux pas, y en a qui vont dire oui, mais c'est quoi la pertinence? Il y a l'Université Laval juste en face.
C'est vrai, c'est pas pareil.
Il y a l'Université Laval juste en face. C'est deux philosophies différentes. Celle de Laval peut être excellente comme celle de Lévis peut être excellente. Ça dépend vraiment dans quel univers est-ce qu'on se trouve.
Ouais, si tu veux passer du bon temps puis dormir, tu vas à Laval. Puis si tu veux travailler, tu vas à Lévis.
on a aussi un très bon petit bar, la bière pas chère.
Écoute, je vais être vendeur. Moi, j'ai une petite question politique.
Vas-y, ça t'intéresse, une question politique?
Bon, en fait, j'en ai deux. Qu'est-ce que tu penses de l'impact que ça va avoir, premièrement, l'élection de Trump sur l'économie québécoise en termes des finances, là, en termes de tout ça? Là. C'est quoi que tu penses que ça va avoir comme impact sur l'économie, sur les PME, sur tout ça? Là?
Je vais pas m'avancer.
Je vais dire cette question-là, tout ça en deux minutes.
Okay. Bon, ben, excellente question. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que un des principaux problèmes avec Trump, c'est qu'il est imprévisible.
Ouais.
Et on l'a vu sur les marchés américains ont super bien réagi, peut-être même à la surprise, je dirais pas de tous, mais de plusieurs, suite à son élection. Et présentement, bon ben là, on vit quand même une certaine incertitude sur les marchés américains. Je ne veux pas dire que ça va mal, je ne veux pas dire que ça va extrêmement bien non plus. Donc, il y a une certaine incertitude et un des principaux problèmes de Trump, c'est Twitter. Si il arrête de tweeter, possiblement que ça va être mieux. S'il réfléchit un petit peu plus avant de parler, c'est vraiment un des... je cite ici un de mes collègues qui assistait à une conférence et... le conférencier a dit à tous les politiciens dans la salle, lâchez les médias sociaux. Et je pense que c'est une bonne leçon à apprendre de nos politiciens de lâcher les médias sociaux.
Mais ils sont pas capables.
Mais chaque, parce que si on savait à quel point chaque parole est pensée dans un discours de haut fonctionnaire ou de politicien, et surtout au niveau de l'économie.
Et lui, il vient tout gâcher avec une connerie du genre...
Avec 140 caractères, il fout le bordel.
En 140 caractères, il est capable de faire planter une journée sur les marchés boursiers et je vais être généreux en disant seulement une journée. La vraie réponse, c'est imprévisible. L'impact pour le Québec, je ne veux pas dire qu'on est une société à part, on dépend beaucoup des États-Unis.
Surtout qu'ils sont exportation et leur protectionnisme qui va être de plus en plus grand. Là. Fait que c'est sûr que c'est surtout ça l'impact, je pense.
Exactement. Donc, ça restera à voir. C'est imprévisible. Ça peut être bénéfique comme peut être très mauvais. Donc, je veux pas m'avancer sur rien. Je pense que laissons la chance au président qui est là de faire ses preuves. On veut pas partir de polémique non plus. C'est pas une personne qui fait l'unanimité, loin de là. Je suis pas en accord avec tout ce qu'il fait, mais regardons, laissons-le peut-être faire ses preuves. Probablement qu'il a un plan. Probablement qu'il sait où il s'en va. Espérons-le pour tout le monde.
Que la main de la marionnette a un plan.
Non, puis pour appuyer là-dessus, il a donc signé hier un décret qui enlève finalement toute la régularisation au niveau du système bancaire. Là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être encore pire, dans le sens où il vient de... Tu sais, souvent, on disait à son élection, quand il a été élu, là, vous vous rendez compte, il a la main sur le bouton rouge de la bombe atomique.
Ouais, ouais.
Moi, je pense que ce qui est pire, c'est pas la bombe atomique, c'est ce qu'il est en train de contrôler. C'est le domaine des finances qui a complètement une totale liberté aujourd'hui. S'il décrète pas, s'il y a pas de... Je pense que c'est une bombe, là. Parce qu'en tant que tel, tout ce qu'on a vécu pendant quelques années, là, en termes de crise économique, et qu'on commence à peine à se sortir la tête de l'eau de ça, lui, il refoule les gens là-dedans, quoi. Donc, je peux bien comprendre que le système bancaire apprécie son arrivée, parce que, en tant que tel, au début, c'était pas le cas, mais là, il vient de les mettre dans sa poche, là. Ça, c'est clair que... Donc, je sais pas, penses-tu que on court un risque à cause de ça, justement, le fait de... Parce que, tu sais, quand on regarde dans les journaux, on dirait qu'il a enlevé toutes les règles puis il a donné carte blanche aux banques. On sait très bien que c'est pas ça, mais est-ce que tu penses que ça peut créer encore là quelque chose de... encore plus imprévisible?
Mais comme je dis, je reviens sur mes paroles, j'espère qu'il a un plan.
Ouais, ouais.
Des fois, il agit... comme si on était Twitter, là. Donc, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plan et qu'il prend des décisions un peu à la va-vite sans penser aux impacts à court, moyen et long terme.
Mais c'est quand même des décrets qu'il signe. Je veux dire, tu sais, quand tu parles de plan, OK, mais Putain, c'est un truc officiel, là.
Mais c'est ouais. Exactement.
Et puis, vous vous êtes pas rendu compte, c'est qui les gens autour de lui à chaque fois? On dirait sa famille. Non, mais c'est qui le monde qui
mais c'est
sont
sa
là?
Famille, effectivement.
Non, non, mais il y a
ouais,
sa famille, mais
c'est son entourage.
À chaque fois qu'il y a un nouveau décret, je sais pas si vous avez remarqué.
Il y a une nouvelle personne.
Il y a du nouveau monde en arrière, mais...
Ouais, mais ça concerne pas les mêmes sujets, donc c'est ouais, les gens affectés.
Écoute,
à cette...
pour le décret là, des banques là, hier, il y avait une mamie en arrière qui est super en train de rire. Tu sais,
peut-être qu'ils vendent des billets, puis que tu peux apparaître en arrière.
Soyez dans la photo de la prochaine.
C'est un homme de showbiz aussi, Donald ouais. Trump.
Ah ouais, mais c'est carrément ça.
Fait qu'il faut pas oublier qu'il c'est ça. Fait partie
du décret numéro 8 qui a autorisé la guerre dans le monde. Ouais, ouais.
Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est on espère. Je pense que le mot espoir est peut-être positif, peut-être trop optimiste, mais on espère que le président Trump, ça sera pas si pire. On espère même que ça sera bénéfique. Est-ce que ça s'annonce pour ça? Et on n'a pas un assez grand échantillon pour vraiment juger de ce qu'il y en est, mais ceci étant dit, il prend des décisions pour le moins controversées, pour le moins risquées, puis qui ont un impact justement sur les marchés boursiers.
Ouais.
Moi, je parle strictement point de vue finance, mais on peut lire aussi entre les lignes de tout ce qu'il y a au niveau de l'acceptation sociale. C'est énorme, là.
Non, c'est clair.
La division qu'il crée dans ce pays-là, encore une fois, j'espère qu'il y a un plan. Il y a un plan pour établir l'harmonie. Sinon, effectivement, il y a une division présentement. Et cette division-là peut faire peur sur un horizon social,
mais surtout
politique,
qu'on est
économique.
Puis on est à côté.
On n'a pas le choix d'être un peu au courant.
Ouais, exactement.
Le temps file, et là, ça s'en vient trop lourd. La politique, il y en a déjà
assez. Écoute, on a quelqu'un dans le domaine des finances, faut bien que...
Je vous taquine, mais moi, il faut que je fasse ma job d'animateur aussi. On défonce un peu, mais c'est pas grave. On va aller dans la portion challenge technopreneur vers la fin de l'entrevue. On fait tout le temps ceci. J'ai maintenant un thème pour cela. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est ton thème que je voulais sortir tantôt. C'est déjà que j'ai ton thème. Tu connaissais ça? T'es comme, ouais, je connais ça. Donc, oui, comme je demande souvent aux invités, connais-tu le thème que je viens de faire jouer, à part le dernier bout, là?
Écoute, là, ça
dit quelque chose.
Ça semblait être du 8-bit, ça semblait...
T'es un peu jeune, là, mais tu pourrais quand même deviner.
T'es un peu jeune.
Non.
Ça semblait à des après-midi, le fun, là, dans le sol, là,
en train de jouer. Good old Pac-Man.
Et d'ailleurs, Monsieur Pac-Man est mort?
Ben oui, on a fait une nouvelle, je pense. Ah non, on a même pas parlé, t'étais pas là, non.
Ben non!
Mais j'ai vu ça, Monsieur Pac-Man.
La semaine dernière, je pense.
Il y a deux semaines. Donc, question techno. On a parlé d'entrepreneuriat. On va y aller avec la question techno.
J'imagine que tu as un téléphone.
J'espère que tu as un téléphone.
Il est
dans mes poches.
J'ai eu un nom l'autre jour.
En fait, j'en ai deux questions. Première question, en comptabilité pour une entreprise, qu'est-ce que tu préconises pour un entrepreneur en démarrage ou une PME là? C'est quoi que tu préconises en termes d'outils qui peuvent vraiment... aider les entrepreneurs là dans leur gestion de dépenses et revenus, puis t'as-tu des outils toi que tu pourrais proposer?
Le grand livre, non.
La boîte à outils est énorme. Je n'aimerais pas de logiciel en tant que tel, ni rien. Je vais revenir avec ce qu'on parlait au sujet de Trump aussi, ironiquement, mais c'est avoir un plan. Savoir où est-ce qu'on s'en va, en fait, premièrement, qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on doit. Ça, c'est la base. J'ai des entrepreneurs l'année dernière que j'aidais dans leur entreprise. Malheureusement, ne connaissaient pas le coût de revient des items qu'ils vendaient.
Oui, c'est vrai, t'en avais parlé l'autre jour.
Ils établissaient leur prix. Ah, ça, c'est un autre exemple. Ils établissaient leur prix un peu instinctivement, mais ils savaient pas s'ils faisaient du profit ou des pertes par item. Vraiment avoir un plan, je pense que c'est la meilleure chose. Donc, premièrement, savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut, en quoi est-ce qu'on se démarque. Et après ça, c'est un plan sur nos trucs personnels à notre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Ça nous coûte combien? Qu'est-ce qu'on offre? À combien on est capable de le vendre? Puis au final, est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Et le but, c'est pas de devenir millionnaire nécessairement quand on est entrepreneur. Mais c'est justement de pas perdre de l'argent, de créer une certaine valeur pour au moins être capable de vivre de ce qu'on fait ou... justement, pas perdre d'argent avec ça.
Est-ce que vous travaillez avec des outils informatiques, des genres de formulaires, diagnostics, planificateurs, qui vous permettent maintenant d'aller plus rapidement pour ça ou comment ça fonctionne?
Tout à fait. Là. Il y a une panoplie d'outils qui sont disponibles. Mais à la base, je veux pas dire à l'entrepreneur d'aller acheter des outils
sur un outil, alors qu'il faut faire un plan d'abord.
Excessivement cher. Il faut faire un plan à la base. Et là, je veux pas faire sourciller s'il y a des comptables à l'écoute. Là, mais à la base, un bon vieux Excel, là, ça peut faire la job pour le début.
Pour commencer, oui.
Certainement. Ben oui, mais Excel, écoute, c'est
ben dans le cours dans le lancement des entreprises, on avait l'outil, tu sais, un fichier Excel avec toutes les différentes.
D'ailleurs, monsieur Excel est mort. Non, mais Excel, c'est l'invention du siècle. Écoute, c'est tellement. C'est comme le boulier chinois. C'est un truc tellement. Ben non, c'est vrai, c'est le truc le plus de base, mais qui crée tout, quoi. Puis c'est vrai que moi, j'ai une relation amour-haine avec Excel. Là.
Comme tout le monde.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Avec tout ce qui est micro.
Aujourd'hui, avec la possibilité de l'avoir en ligne, ben effectivement, ça augmente le potentiel parce qu'on a du coworking avec ça. Puis. C'est merveilleux.
Puis, je veux pas te couper, mais faut pas hésiter non plus à aller chercher soit une formation, aller chercher un livre, apprendre à utiliser Excel. Le nombre de gens qui ouvrent Excel, ils ont peur. C'est comme s'ils avaient vu un fantôme, puis ils partent en courant. Faut pas avoir peur d'Excel.
Excel pour les nuls, le petit livre, ça va faire la job.
C'est des cases avec des chiffres qu'on peut entrer dedans et on peut faire des opérations mathématiques. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être bon en maths pour faire du Excel.
Mais je suis certain que ce que tu viens de dire là, tu l'as appris à des gens, parce qu'il y en a qui servent d'Excel juste pour faire des tableaux.
Oui, tout à fait.
Mais à la base, c'est un tableur, c'est fait pour faire des
puis
opérations.
Et maintenant, il y a tous les outils de statistiques en temps réel.
Tu peux faire
capable de voir tes graphiques en temps réel. Écoute, c'est merveilleux.
C'est très puissant. Je pense que nous ici, ben peut-être Samuel connaît un peu plus, mais je pense que toi et moi, c'est 5% qu'on connaît les fonctions d'Excel.
D'Excel, non.
Tellement qu'il y a de trucs complexes.
Je vais juste en profiter pour un deuxième outil. En fait, sans nommer de logiciel, garder des traces de toutes les opérations.
Tu peux nommer. Vas-y, balance les noms.
Parce que selon moi, il n'y a pas un logiciel meilleur qu'un autre. C'est qu'il y en a qui s'adaptent mieux à certains types d'entrepreneurs que d'autres. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres que ça s'adapte mieux à ta propre situation.
Ouais.
Une personne qui connaît un tel logiciel parce qu'elle a tout le temps travaillé là-dessus, même si l'autre est peut-être quantitativement, qualitativement meilleur, le temps qu'elle va l'apprendre, si elle connaît son logiciel, c'est bien.
Quoi. Ouais.
Mais moi, je dirais vraiment de garder des traces, garder des registres, puis être ordonné, être structuré. Donc vraiment, qu'est-ce que j'ai payé pour mon entreprise? Quelles sont toutes mes factures que j'avais, toutes mes factures d'achat, etc. Mettre de l'ordre là-dedans, ça paye beaucoup.
Puis pas le mettre dans une boîte à chaussures.
Non, ça, on peut un peu témoigner. Moi aussi, je suis un gars pas très ordonné, puis c'est ça qui la plus grande difficulté, je pense, est en affaires pour moi.
En autant qu'il y a des onglets dans ta boîte à chaussures, il y a toujours moyen d'ordonner une boîte à chaussures.
Moi,
hein?
J'ai pas une boîte à chaussures.
J'ai
comme une poche arrière d'un jean, j'ai une coupe de facture qui se ramasse là, mais je finis par l'amener à quelque part après ça, ma blonde prend le relais. Mais faut ça aussi, faut avoir quelqu'un qui nous dit, moi, j'ai tout le temps été nul là-dedans, fait qu'il a fallu que je m'entoure de gens. Puis là, maintenant, j'ai ça qui me sauve, mais au moins d'avoir des bonnes bonne structure avec les outils web. Déjà, on parlait d'outils Google Drive et compagnie. Maintenant, là, je suis très structuré, mieux organisé. Mais au niveau papier, c'est là que c'est difficile, je trouve, avec toutes les factures, les achats. Quand c'est en ligne, c'est correct. Quand on achète via PayPal, ben là, nos traces, on les a. On a la trace avec le courriel.
Mais c'est quand c'est papier.
C'est ça. Toutes les achats qu'on peut faire ou les restaurants, il faut vraiment garder une trace.
Ouais, c'est l'enfer.
Faut être tous les semaines.
Surtout le papier carbone.
Oui, la facture, elle s'efface.
Notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Hein? Donc, c'est nous, des fois, qui... Puis pas par paresse, là, des fois, c'est parce qu'on a plein d'autres choses à faire, mais de prendre cette petite seconde ou, mettons, 30 secondes d'investissement pour bien classer nos trucs.
Ah, c'est clair.
Bien ordonner nos trucs.
De tête, non, c'est l'enfer. Là.
De prendre le temps, c'est ça le mot-clé. Le vendredi après-midi, on peut finir une demi-heure plus tôt, puis te lancer des papiers.
Pourquoi pas
3 heures?
Pas deux, mais peut-être une bonne bière en même temps. C'est pour rendre l'exercice un peu moins...
J'osais pas le dire, mais bon.
Non, parce que sinon, moi, je vais laisser les papiers de côté puis je vais continuer sur la bière. Donc, deuxième question techno. Sur ton téléphone, t'as-tu une application qui se trouve sur ton téléphone, que tu utilises souvent, mais dont t'as jamais parlé à personne?
Non, j'ai jamais parlé à personne. Non, j'ai très peu...
Une application secrète.
Pokémon Go.
Je très peu application.
C'est non,
mais j'ai quelque chose quand même à te raconter sur Pokémon Go tout à l'heure.
Ah, OK.
Mais,
dans le bloc techno après la pause.
je vais parler d'une application que j'adore, surtout ici à Lévis avec les problèmes de trafic. Waze. Quelle belle invention.
Ouais,
Waze. Moi, Waze. Je ne vivrais plus sans Waze.
C'est celui où tu peux genre commenter genre à tel endroit.
Oui, c'est un réseau social.
Il y a un genre d'entrave routière puis machin.
Ouais, ou tout simplement une un policier.
Oui, mais c'est vraiment un réseau social en plus. Moi, j'ai la blonde à mon cousin qui m'en a parlé. Elle avait rendez-vous avec une autre amie, puis vu qu'il était ami sur Waze, ben, elle fait savoir ce que son ami était rendu. Puis elle s'en venait dans 10 minutes. Donc, j'étais comme, OK, c'est vraiment interconnecté, puis justement, éviter certaines situations.
Ben, écoute, j'avais une réunion à Sainte-Marie la semaine dernière. Donc, un mardi soir, 17h moins quart, Lévis, boulevard Alphonse Desjardins, je m'en vais prendre la 20, il faut que j'aille à Sainte-Marie. Il me calcule automatiquement le chemin le plus court, me fait passer par les terres. Et
c'est
merveilleux.
Google Maps, tu ne l'aurais pas calculé, tu aurais juste dit t'as du trafic pendant tant de temps à telle place.
Exactement.
Puis après donc, ça, c'est voici l'autre alternative, mais qui n'est pas nécessairement la plus rapide. Là.
Donc, c'est ça. Des applications secrètes, non.
Ah, c'est cool, Waze. Bon choix, je vais le partager.
Ah oui, je l'avais téléchargé à un moment donné, c'était très bien.
Fait qu'on peut trouver la police, c'est ça.
Non, mais c'est les radars mobiles, les gens communiquent entre eux, c'est ça. Et côté musique, ça va nous amener tranquillement, pas vite, vers la pause. Toutes les invités des technopreneurs ont le choix musical pour la pause. Alors, j'ai demandé à Samuel de me donner deux choix et je te laisse nous en parler un peu. Tu nous as suggéré Patrick Watson, The Great Escape. Donc, Patrick Watson...
Oui, tout à fait.
Bon québécois.
Donc, québécois, qui chante en anglais, mais québécois tout de même, que j'adore. C'est merveilleux ce qu'il fait. Je recherchais quelque chose qui était un petit peu un aspect innovant. Je trouve que Patrick Watson, on a parfois de la difficulté à le catégoriser dans un style musical. Et je suis littéralement tombé en amour avec lui et son band dans un spectacle qu'il donnait avec l'OSQ au Grand Théâtre à Québec. C'est des tunes qui sont super orchestrales.
Mmh.
Et imaginez, donc quand on écoute la chanson, il faut s'imaginer l'orchestre symphonique qui joue en même temps. Waouh, les frissons qui sortaient, c'était merveilleux. C'est un très bon artiste que j'affectionne particulièrement.
Je ne connais pas beaucoup, je connais le nom.
Ben, c'est vraiment la cool, Patrick Watson. Moi, je trouve qu'il est sous-estimé.
Je vais découvrir en même temps que les auditeurs. Et puis en deuxième temps, avoir Fjord, I Get It Now. Donc, tu parlais que c'était un buzz présentement sur Spotify, là, plusieurs milliers d'écoutes.
Ben, on peut même parler de millions.
Millions, hein, ouais, c'est vrai.
Je cherchais quelque chose qui était dans le thème de l'émission Les Technopreneurs.
Tu vois qu'il fait de la recherche, hein. Il a fait le temps de prendre une recherche pour la musique qu'elle a passée ce soir.
C'est bon, ça. C'est bon, ça.
Des formations professionnelles.
Au lieu de faire j'aime ça, je veux que tu écoutes ça, il est allé faire une recherche. C'est bien, on apprécie.
C'est un band de Québec. C'est un band méconnu, très, très peu connu au Québec. Pourtant, plus de 2 800 000 écoutes sur Spotify. On parle souvent, les artistes, puis à tort ou à raison, là, les opinions sont mitigées, mais les artistes et Spotify, c'est une relation d'amour-haine.
Oui, en effet.
Fjord, qui a une relation, j'imagine, d'amour avec Spotify, qui se sont fait connaître sur Spotify, que c'est un buzz sur Spotify et que nous-mêmes, en tant que Québécois, on connaît très, très peu ce band-là. Et c'est un band de tout près de chez nous, l'autre bord du fleuve, reste au centre-ville de Québec. C'est des personnes qui sont vraiment dans l'esprit entrepreneurial. Ils ont osé aller voir un producteur avec leur matériel qui a trippé. Et présentement, ça joue beaucoup. C'est un style qui est très relax. Là, on est en soirée, je me disais, on va prendre de quoi de très relax. Mais vraiment, dans l'esprit entrepreneurial, Fjord, c'est un excellent ben. Et c'est un ben de chez nous, donc pourquoi pas.
Ben voilà, très belle sélection. Donc, restez à l'écoute. On va en musique. Ensuite, ça aura quelques petites pubs et on revient. Donc, restez là. À tantôt.
Says bye 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 to all of us. Always says bye 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 to all of us. Thank you.
things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade away. Don't let yourself fall down. Says bad day, looking for the greatest game. On bad day, looking for the greatest game. Greatest game.
L'alternative radiophonique. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le génie bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles Acadieux, entre la route du président Kennedy et les galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15$ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens. 24 rue Charles-Acadieux.
Vous voulez écourter ce concert matinal? Eh bien, commandez une des 4 trousses produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense d'Hydro-Québec. Obtenez une pomme de douche à débit réduit, un aérateur de robinet et un sablier qui limite les douches beaucoup, beaucoup trop longues.
Commandez votre trousse pour 18$ ou plus à hydroquebec.com et économisez jusqu'à 100$ sur votre facture d'électricité. Le programme prend fin le 28 février 2017. Un message d'Hydro-Québec.
Vous songez à vous prendre en main? Mettez-vous en forme avec le karaté. Commencez dès maintenant avec les studios Unis de Lévis. En janvier, profitez du spécial 3 cours pour 19,95. En plus, jumelez 3 mois de cours à cette promo et recevez gratuitement le kimono. Vous avez bien compris, 3 cours de karaté pour seulement 19,95. Dès février, nous aurons la plus grande salle d'arts martiaux dans la Rive-Sud avec des nouveaux locaux, plus grands, plus beaux et toujours la même ambiance chaleureuse et familiale. Inscrivez-vous maintenant, c'est en janvier seulement. Les studios Unis de Lévis, 418-837-5564 ou par courriel à lévis@studiounis.com.
Les technopreneurs.
Et nous sommes de retour à l'émission Les Technopreneurs en direct des studios de Lévis. Voilà, j'ai la misère à soir de CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Donc, nous sommes maintenant rendus à la portion technologique de l'émission. Donc, Samuel a décidé de rester avec nous pour partager, Jean-François, un petit débat, il semblerait. Donc, on va pouvoir échanger les trois ensemble. Donc, nouveau co-animateur pour la soirée.
Oui.
Samuel, merci d'être resté.
Merci de me tolérer parmi vous.
Donc, comme à chaque fois qu'on veut avoir de l'information, il faut se connecter à l'Internet. Ah, ce fameux son. Ce vieux son technologique, hein, on l'aime beaucoup. Hein.
Ouais, mais là, les gens comprendront plus. Je suis sûr qu'il y a une gang là, qui ne sait même pas de quoi on parle.
Mais quoi? C'est quoi ça?
C'est ben quoi ce son-là?
William, que j'avais à mon émission, ça me pensait, c'est quoi ça? Ben, quand je me connectais à Internet, quand j'avais ton âge.
C'est ça que ça faisait comme bruit. Hein? Non.
Ben non, on va plutôt y aller avec le thème à JF pour la chronique techno.
Oui.
Allez. Non, j'ai vu ta vidéo tantôt sur Google Plus. J'étais là, ouais, c'est cool ça, les Mobinotes, avec le petit thème, tout.
T'as retrouvé la musique?
Fait que je l'ai extrait.
T'as extrait ma musique?
Oui.
Sans m'en parler?
Ben non, oui, non, t'as signé une autorisation.
J'ai mes droits d'auteur. Ah donc, ouais? Ben tout ce que je diffuse...
Ici, t'as signé avec ton sang, tu t'en souviens pas?
Non, je m'en souviens
pas. C'est vrai qu'on t'a donné du GHB avant, mais c'est pas grave.
Ouais.
Bon, les technologies, qu'est-ce qui se passe sur les interwebs?
Ben, écoute, y a tellement de choses, hein. J'ai pas fait un résumé depuis un mois et demi que j'étais pas là.
Ben, j'espérais qu'il fasse toute l'actualité rétrospective.
Et première actualité qui vient même de cet après-midi, j'ai donné une formation aujourd'hui au Conseil de la Culture pour les formations sur Google. Et y a un monsieur qui vient me parler, qui me dit « Connais-tu ça, l'ordinateur quantique? »
Quantique.
Ouais, fait que j'ai dit « Ben non ». Fait que ça arrêtait là. Et j'ai bien évidemment, je vais lire l'actualité et tout ça. Et là, je tombe sur quoi? Sur la révolution de l'ordinateur quantique. C'est pour bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est, à votre avis, l'ordinateur quantique?
Quantique. Ouais, ça me dit quelque chose, là.
T'as-tu déjà entendu parler de ça?
Ça doit s'appuyer sur la physique quantique.
C'est ça.
Ouais.
Donc, pas mal tout ce que je peux te dire là-dessus.
Ouais, moi aussi, ça arrête, là. On dirait que j'ai... Ouais.
D'ici une dizaine d'années, on pourrait compter sur l'aide d'un ordinateur quantique pour résoudre les problèmes complexes et des mystères du cosmos. Des problèmes insolubles pour l'instant, une équipe internationale de chercheurs a présenté un premier projet de création d'un calculateur quantique. Donc là, on passerait à l'étape supérieure, finalement, qui serait de régler des problèmes scientifiques sur la physique quantique ou sur les problèmes des trous noirs, puis tout ça, là, grâce aux technologies, justement, parce qu'on est rendu, on a la possibilité maintenant de pouvoir faire des calculs beaucoup plus développés et de résoudre des mystères comme qui sommes-nous, qui suis-je, où suis-je, et tout ça. Donc voilà, c'est un petit article je trouve intéressant. Je vais vous poster ça sur c'est sur le Huffington Post, je pense. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant parce que effectivement on est en ce moment dans toute l'élaboration technologique et de savoir est-ce que on a atteint une limite, est-ce qu'on a dépassé les limites. Mais où est la fin effectivement. Et ce que j'ai pu lire après ça, parce que bien évidemment je me suis renseigné sur la physique quantique. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter? C'est qu'on pourrait peut-être voyager dans le futur avec ça.
Dans le futur.
En fait, les données, on pourrait envoyer des... Avec l'ordinateur, là. On pourrait envoyer des données dans le futur puis dans le passé.
Oh! Mais les pourrais-tu nous
répondre? Ce serait... C'est fou pareil, là.
Oh, oui.
Retour vers le futur 4.
Oh, bon. Le fan de Retour vers le futur en moi, trip.
Jean-François,
il m'en a un grand aussi.
Ah oui, moi là, c'est...
On va se faire un concours de répliques tantôt.
Tu veux, on fait une émission juste de répliques de Retour vers le futur.
Alors, ça fait un plaisir de vous parler d'entrepreneuriat.
Justement, là, à la semaine de relâche, j'ai annoncé qu'on ferait relâche, nous aussi.
Ah, mais moi, je t'enregistre une émission
voilà,
de 6 heures là-dessus.
Si tu veux, on peut faire une capsule préenregistrée où je te laisse les ondes puis fais une soirée technopreneur Retour vers le futur.
Ah, ce serait vraiment cool. On pourrait le passer puis faire les voix. En tout cas, donc, autre petite actualité. J'ai parlé courant 2016 là, cet automne, j'ai parlé souvent des Facebook Live puis des vidéos de ça. Eh bien, YouTube déploie maintenant la diffusion vidéo sur mobile en direct.
Oh.
En fait, il existait déjà YouTube en direct depuis quelques temps que personne connaissait parce que c'est un outil qui était très prenant. Moi, j'ai déjà utilisé pour une conférence et ça prend vraiment une méchante machine pour pouvoir faire du streaming avec
comme ça.
C'est
un studio, là, fait que t'as besoin.
C'est ça. Et puis ça prend vraiment. Ouais, c'est un logiciel assez complexe à utiliser là. Par contre, ça permettait de faire des vidéos en direct durant 8 heures sans interruption. Donc c'est sûr que c'était quand même intéressant. Et là, donc YouTube commence à développer la vidéo en direct depuis votre appareil mobile. C'est pas encore le cas pour toutes les applications, ils vont faire comme Facebook, ils vont le déployer petit à petit dans des comptes là précisément, mais dans pas longtemps, on va pouvoir faire du streaming à partir de votre téléphone directement sur YouTube pour faire des lives peu importe le live. Là. Donc là, on est vraiment en plein dans la guerre du live, là, la guerre de la vidéo en direct. Et je trouve ça intéressant parce qu'en plus, dans ce genre de guerre-là, ils vont tout amener de l'amélioration. Tu sais, Facebook a déjà amené de la vidéo 3D et puis du 360 dans son live. Là, et puis là, YouTube va essayer de rentrer encore plus que ça. Ce que je trouve intéressant pour les gens qui font de la formation, c'est aussi d'utiliser ce genre d'outils-là plutôt que d'utiliser des applications des logiciels de webinaire là qui coûtent un bras là, ils vont pouvoir diffuser à travers YouTube et commercialiser bien évidemment leur diffusion. Donc même pour les artistes d'ailleurs, les artistes ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'ils veulent.
À la différence de Facebook, c'est que là tu vas avoir ta vidéo, tu vas pouvoir la travailler et faire de quoi avec versus le Facebook Live où ce que il est live puis après ça il est là, tu peux trouver une façon de l'extraire, mais c'est pas comme YouTube et tout le côté.
Et la différence de Facebook, c'est que tu vas pouvoir monétiser ta vidéo aussi.
Ouais, c'est
donc
ça.
Quelqu'un, un artiste émergent, va pouvoir faire son show et monétiser avec de la publicité, ce qui est l'intérêt sur YouTube majoritairement. Là. Donc, super intéressant ça aussi, je vais vous partager ça. Autre petite actualité, on a parlé du décret américain.
Ah, pas encore
le décret de notre cher ami Donald.
Donaldo,
qui,
comme dirait Guillaume.
Il y a quelques semaines avait donc frustré l'Amérique et le monde entier avec son décret sur l'immigration, soit au niveau des Mexicains ou au niveau même de certains pays dont la population sont musulmans. Et parce que j'aime pas le mot pays musulman, ça n'existe pas.
Non.
À travers ça, ce qui est intéressant, puis ça je trouve ça vraiment hot là, c'est que il y a eu 97 signataires dont on retrouve Apple, Airbnb, Dropbox, eBay, Facebook, Google, Inter, Kickstarter, LinkedIn, tu les as toutes là, toute la crème là de la Silicon Valley. Qui ont dit, mais écoutez les amis, nous c'est un petit peu chiant parce que il y a à peu près un tiers de nos employés qui viennent de ces pays-là, tu vois,
en effet.
Et qui voyagent souvent parce qu'en fait, il n'y a pas réellement tout le monde dans leur bureau. Tu sais, chez Google, t'as 35 000 employés à travers le monde, mais ils sont pas tous en Californie, mais c'est des gens qui voyagent énormément.
Ben oui.
Et là, ils se sont retrouvés coincés. En fait, il y a une grosse partie des employés de Google qui se sont retrouvés coincés à la frontière et qui n'ont pas pu, malgré leur situation qui était déjà régularisée.
Tu sais. Ben ouais, c'est ça. Il y
avait tout ça parce qu'ils sont nés dans le mauvais pays. Ils se trouvent coincés. Donc, c'est une initiative qui va sûrement avoir un gros impact, en tout cas plus que les autres petites manifestations. Je pense que ça va vraiment mettre du poids parce que si on faisait le calcul des 97 signataires, ils doivent représenter à peu près 95% du pouvoir d'achat de la planète, là. Donc, ouais. Je pense que, à mon avis, ça devrait régler le problème de ce décret-là. Mais je trouve ça très intéressant là, que des compagnies de même se mettent
tous ensemble.
Alors qu'il y a quelques temps, les compagnies marchaient les fesses serrées quand Trump a décidé de faire son protectionnisme, justement. Là. Donc, ces compagnies-là ont dit non, rien, tu te calmes, là, nous, on joue pas dans ce jeu-là. Fait que je trouve ça intéressant que les domaine des technologies embarque là-dedans.
Ils ont pris le même ton que Trump prend lui-même quand il se dit non, on fera pas ça ou non, tu feras ça.
Oui.
Ils ont décidé de faire, ok, non, ça marche pas.
Exactement. Puis tiens, on s'entend que quand t'as les patrons d'Apple puis de Google qui viennent te remettre à l'ordre, là, c'était déjà arrivé d'ailleurs pour Obama, au passage, quand Obama avait parlé des confidentialités d'information puis des données confidentielles puis l'histoire aussi avec Snowden puis tout ça. Il y avait eu une petite rencontre qui avait été faite des patrons de Google dans le bureau ovale où Monsieur Obama s'était fait remettre à l'ordre et comme par hasard le lendemain il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de problème. Donc on est rendu là quand même, on est rendu à ce que ce soit le patron de Google qui convoque le président, c'est assez drôle. Dernier petit point d'actualité, est-ce que tu connais Saga Film?
Saga Film.
Ouais, je t'en ai déjà parlé ici.
Oui, en effet, c'est pas c'est quelqu'un du Québec, c'est un Québécois.
C'est quelqu'un du Québec et c'est quelqu'un de Lévis.
De Lévis, ben oui.
Oui.
Nicolas, je crois, c'est ça.
Non.
Non, je me trompe de personne.
Vincent Routier.
Ouais.
Vincent Routier, qui à l'époque a créé Saga Film avec Samuel Matteau, qui maintenant est réalisateur là, à son compte, réalisateur travail autonome. Et Vincent, lui, son grand rêve, c'était de créer le cinéma interactif. Et Saga Film, c'est une entreprise québécoise qui est devenue leader en Amérique du Nord, puis je dirais même leader mondial, on peut s'en permettre, dans l'interactivité entre la vidéo, les humains, et ils ont fait énormément de choses. Ils ont travaillé pour Desjardins, dans les nouveaux guichets pour les enfants, le guichet éducatif là, qu'ils ont créé. Ils ont fait énormément d'événements, et ils ont créé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du gym interactif.
Non.
Vous n'avez pas vu ça passer?
Non.
Le gym interactif, là, c'est qu'ils ont... donc là, on a la vidéo. Je ne sais pas si on peut mettre la vidéo. On va peut-être entendre le son. Là.
Ouais, c'est ça. On est à la radio. Tantôt, j'ai une vidéo à mettre. Là,
mais il va sûrement y avoir le son. Écoutez bien. Ça, ce sont des enfants.
Oui.
Qui jouent avec un ballon. Écoutez les bruits.
Il y a des sons de jeux vidéo.
Oui.
Pour donner une image, les gens lancent un ballon sur des cibles.
Voilà.
Comme un jeu vidéo sur...
Exactement. Donc...
Le côté interactif est très présent.
Donc, c'est une innovation... tu peux arrêter, Loussem. C'est une innovation,
les formes.
Et ça, c'est vraiment malade. Et puis ça, moi, je suis très fier de ça parce que Vincent, je le connais depuis longtemps. Il a fait son chemin. Là, quand on parle d'entrepreneuriat, là, c'est quelqu'un qui est parti, qui filmait des pubs pour Orléans Express là avec sa petite caméra. Et maintenant, il est rendu à Hollywood, il est rendu à Silicon Valley. Il fait des trucs capotés. C'est vraiment l'interactivité. Donc en fait, les enfants ont un mur géant là et ils lancent leur ballon sur des cibles virtuelles et ça donne des points. Puis écoute, c'est fou là. Je veux dire, ça pour façon technologique là. C'est vraiment ça va transformer beaucoup de choses dans le monde de l'éducation, tout ça. Donc vous irez voir là, je vous ai mis alors je sais pas même pourquoi il y a aucun article en français. J'ai trouvé aucun article en français.
Ah non.
Les articles que j'ai trouvés sont tout en anglais, donc je vais quand même vous le mettre pareil. Ça a l'air que ça intéresse juste les anglophones. Donc, en tant que tel, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne, les caméras 3D, tout ça. Puis, moi, je vous invite à aller visiter la page de Saga parce que, puis d'aller contacter aussi par Facebook. C'est super, super intéressant. Et ça vient de chez nous. Donc, c'est merveilleux. C'est l'innovation pure.
Ben oui, tout à fait.
Mmh. Mais je le vois évoluer. Il a fait des... C'est ce qu'on appelle les contes en hyper-réalité, en affaire de même. Là. Les contes, vraiment, il a fait des histoires interactives. Ils innovent énormément. Puis ça, les Américains sont friands de ça. Ils ont eu des prix. Ils ont eu des prix aux États-Unis et tout ça. Puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient ici, il a l'impression d'être un peu... personne ne le reconnaît. Mais écoute, là-bas, là, ils ont vraiment la cote. Fait que, c'est ça.
C'est bien.
Donc ça finit, ça fait le tour de l'actualité. Par contre,
c'est
j'ai
ça.
Un petit débat avec vous.
Ah ah.
Donc c'est un débat moyennement politique. Mais
bon,
je voulais qu'on parle de.
Ah ben écoute,
c'est mon nouveau visage 2017.
Donc c'est Jean-François Trump.
Donc malheureusement, on a vécu des événements assez tristes dernièrement, comme tout le monde le sait. Et ce que j'ai trouvé terrible dans ces événements-là, c'est le débat qui a pu se faire sur Facebook. Donc ma question ce soir que je vous pose et que j'aimerais qu'on discute, étant donné qu'on est toutes imprégnées de cette actualité-là et aussi imprégnées de l'utilisation de Facebook, c'est, selon vous, est-ce qu'on peut justement... Quelle est la limite dans la liberté d'expression au niveau des réseaux sociaux ? Donc quand il arrive un drame comme celui-là, c'est quoi la limite ? Vous, qu'est-ce qui vous choque ? Qu'est-ce qui vous choque pas ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, on se dise « Ce gars-là, il a dit une connerie. D'accord. Lui, il a dit une connerie. On l'arrête. » Donc, c'est un débat que j'aimerais échanger avec vous.
C'est une très bonne question. Je ne sais pas si Samuel a quelque chose de plus spontané que moi. Moi, j'étais plutôt du genre « Fais attention à ce que tu dis par rapport à ça. » Il y a un jeune, justement, qui a été mis
en
arrestation
deux, ouais.
par rapport à ça. Parce qu'il disait qu'il trollait, supposément. Non, tu peux pas cacher sous un troll, commencer à avoir des idées extrêmes comme ça.
Alors, dire, oui. C'est quoi un troll?
Un troll, c'est quelqu'un qui volontairement fout la merde dans des commentaires, dans une discussion, puis qui veut juste... dans le fond, c'est quelqu'un en manque d'attention. Moi,
c'est ça.
C'est quelqu'un qui manque d'attention, qui va aller dire de quoi pour provoquer, réagir, puis qui mesure pas nécessairement les conséquences de cela. Donc, c'est ça qui est arrivé, les deux jeunes qui ont été mis en arrestation. C'est parce qu'on est allé dire, ils ont bien fait! J'aurais fait pareil, ou, tu sais. Non, là, je pense que tu mesures pas ce que tu dis, là. Moi, je trouve que on fait bien les avertir d'avoir de quoi, là, de là aller jusqu'à une arrestation ou d'avoir un casier criminel, là, je sais pas, là, je serais un petit peu mitigé là-dessus. Je tends la perche à Samuel.
Une question extrêmement complexe. Tu sais, ce qu'il faut penser aussi, tu sais, faut être capable de faire la part des choses aussi. Je cite justement dans la presse, on parlait d'un homme qui avait été arrêté pour les propos qu'il tenait. Et en réalité, il usait de sarcasme. Bon, là, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour pouvoir me faire une tête par rapport à ça. Ceci étant dit, je vais citer là-dessus mon père, qui m'avait déjà... sa parole qu'il dit le plus souvent, c'est « Fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. » Je pense que ça, on a parfois de la misère à s'en rappeler. Puis malheureusement, c'est que derrière un clavier, c'est très, très dépersonnalisé aussi derrière un clavier. Je vais faire un parallèle vite avec ce qu'on vit en tant que professeur. Tu sais, un étudiant, maintenant, c'est par courriel. Beaucoup plus simple d'écrire à son prof, écrit par courriel, question, puis d'avoir un langage parfois un peu plus crunchy, là, on va se dire, ou même tout simplement d'être irrespectueux. Ça se voit, on le voit de plus en plus. C'est plus facile derrière un clavier, c'est plus dépersonnalisé. Tu sais, c'est majeur comme problème. Ceci étant dit, à un moment donné, il va falloir qu'on se donne en tant que société des balises sur qu'est-ce que la liberté d'expression. Je pense que tout le monde a droit à son opinion. Ça, c'est un petit peu plus éditorial ici. Je travaille avec différentes personnes à l'université de différentes confessions, dont plusieurs de confessions musulmanes. Je pense qu'ensemble, on forme une société qui s'appelle le Québec. Et ultimement, le Canada, là, peu importe l'allégeance politique, là, mais on forme tous une société. Et je pense que c'est la beauté de où est-ce qu'on en est, c'est que... le Québec, le Canada, même les États-Unis, l'Amérique, s'est bâti avec des gens qui ont immigré. Il faut toujours s'en rappeler et que c'est ce qui fait notre diversité. Puis, écoutez, au lieu de vivre en opposition les uns avec les autres, je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres. Autant sur les nouveaux arrivants qui ont à apprendre des Québécois, autant les Québécois ont à apprendre des nouveaux arrivants. Bon, c'est peut-être utopique, c'est peut-être beau comme parole, mais je pense... personnellement qu'on a beaucoup à apprendre des autres cultures, qu'il faut démontrer de l'ouverture. Puis l'autre point aussi, c'est, je veux bien croire que très souvent on va dire, bon, ben ces peuples-là sont fermés, ils veulent pas nous parler, etc., etc. Oui, mais a-t-on déjà pris le temps de leur parler?
Les écouter.
Ouais. Les écouter. Tu sais, à l'université, veux pas, c'est un milieu très multiculturel, très très diversifié. Juste prendre le temps de parler avec ton voisin à côté, qui n'a peut-être pas la même couleur de peau que toi, qui est visiblement pas de la même religion, de la même allégeance que toi, de lui parler, d'ouvrir le dialogue. Moi, je me rappelle, pendant mes études, j'avais un de mes voisins qui faisait le ramadan. Puis il m'avait mis au défi de le faire, ne serait-ce que pendant une journée. Je l'ai fait pendant une journée. Puis le lendemain, j'avais trouvé ça tellement dur. Je me rappelais, ce gars-là, il aimait bien, il avait la dent sucrée, il aimait bien les croissants. Fait que le lendemain, je m'étais vengé tellement j'avais trouvé ça difficile. J'étais allé chercher un croissant, puis j'avais mangé dans la face. Puis j'ai monté.
Je me disais,
hey, c'est bon. Hein. Mais non, sérieusement, c'est l'ouverture, c'est de comprendre pourquoi ils font ça.
Penses-tu que ça, c'est faisable avec les technologies? Parce que moi, ma grande question aussi, c'est de savoir, est-ce que aujourd'hui, cet outil-là, qui est Facebook, est une médaille à deux faces, là. Mais surtout, est-ce qu'on peut utiliser les technologies dans ce sens-là? Parce que on a pu voir aussi que si on parle d'attentats, que les Facebook a aussi été très important quand l'année dernière, par exemple, au niveau des attentats à Paris, les gens se sont retrouvés là-dessus
pour communiquer.
Est-ce que t'es correct? Est-ce que ça va? Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est le fait de dire, est-ce que un outil comme ça peut être contrôlé, peut être dirigé? Est-ce qu'il peut y avoir des limites? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut limiter? Est-ce qu'on peut parce que on peut s'en servir aussi pour le bien, mais c'est ça, t'sais, moi, ma grande question, là.
Facebook est d'abord et avant tout un moyen de communication. Faut revenir à la base de qu'est-ce que Facebook. C'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication ultra puissant. C'est un moyen qu'on se retrouve tout le monde sur la même plateforme. Tout comme le téléphone, tout comme les textos, tout comme la radio, la télévision, ce sont tous des moyens de communication. Évidemment, dans tous ces moyens-là de communication, il y a moyen d'avoir des propos haineux, il y a moyen d'avoir des propos qui sont déplacés, tout comme il y a moyen, justement, de prendre des nouvelles de nos proches. Là où je veux en venir, c'est que c'est un moyen de communication. À la base, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de communiquer, donc c'est possible qu'il y ait des propos haineux sur Facebook. Maintenant, ce qu'il faut être conscient, c'est que Facebook, par rapport au téléphone, il y a une certaine vitrine publique, tout comme la radio, télévision.
Et ça reste.
Et c'est là qu'il faut faire attention. Qui peut lire le commentaire? Et je reviens à...
Exactement.
La liberté, elle s'arrête où? Théoriquement, elle s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence? Et je pense que tout le monde, on a un droit fondamental qui est celui de vivre en toute liberté, hein, dans le respect. Et je pense que ce respect-là, ben, quand on franchit la limite du respect, ben, il y a quelqu'un qui est brimé dans l'exercice de ses droits.
Oui, puis vous savez, dans le discours qu'a fait l'imam lors des cérémonies, il a dit, vous savez, la première victime, en fait, de tout ça, ce ne sont pas les victimes, c'est Alexandre Bissonnette. C'est
la sixième victime.
C'est lui qui est la première victime, ou la sixième victime, mais il est une victime de justement ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut apprendre de tout ça, c'est de se dire que finalement, ce jeune-là, là, peut-être par un manque d'ouverture ou quoi, mais peut-être qu'il s'est fait justement rentrer dans la tête des informations, des idées qui étaient peut-être pas les siennes au départ, mais qui, à force, ont mûri, puis on fait en sorte qu'elles se sont rendues dans le mauvais endroit de son cerveau, puis que ça a créé... Donc, c'est ça qu'il faut, je pense, retenir de tout ça, c'est de se dire, c'est un miroir, hein, Internet, c'est un miroir de la société, donc on peut y voir de belles choses, mais on peut y voir des choses dégueulasses, mais il faut faire attention, effectivement, à ce qu'on dit, et il faut tenir responsabilité. Et moi, quand je lis des gens comme Samuel Huot, là, qui s'est fait arrêter, qui veut pas dire son nom, mais je vais le redire une deuxième fois, qui s'appelle Samuel Huot, et qui...
Samuel Huot, c'est ça?
Okay. Qui se cachent derrière leur profil pour dire des choses d'eux-mêmes, surtout une semaine après ce qui s'est passé, à un moment donné, faut arrêter. Là. Faut arrêter de se dire aussi, j'ai dit quelque chose, j'en tiens par rigueur. T'sais, moi, je dis souvent, par exemple, à mes clients, entrepreneurs de ça, à partir du moment où tu as une responsabilité publique, parce que quand tu es entrepreneur, tu as une responsabilité publique, arrête. Tu sais, ne publie pas des choses qui peuvent contraindre. Et moi, j'ai trouvé ta phrase très bien, là, qui fait, si t'as pas envie qu'on te le dise à toi, dis-le pas aux autres, quoi. Donc, c'est surtout, moi, là-dessus, que je pense qu'il y a une éducation à faire. Il y a une éducation auprès des jeunes à faire au niveau de l'utilisation de ces outils-là. C'est surtout ça qui est important. Il suffit pas de dire, ça, c'est pour les jeunes, c'est leur affaire à eux. Faut apprendre à l'utiliser. Faut apprendre à l'utiliser en classe. Faut apprendre à l'utiliser chez soi. Parce que c'est un outil qui peut, et on le sait, c'est un outil qui peut aussi bien faire ça, du bien, qui peut aussi faire du mal, étant donné que je vous rappelle que Daesh recrute par Facebook. Tu sais.
Oui, j'imagine.
C'est... Mais si on se ferme les yeux à toujours dire « Ouais, mais c'est un outil, puis c'est de la liberté d'expression, puis je sais pas quoi », ben, on risque de se... Parce que ces jeunes-là, cette génération-là, sont beaucoup plus vite que nous, puis sont beaucoup plus rapides d'exécution. On a pu le voir. Là. Donc, en tout cas, mais c'est, je pense que c'était important parce que j'ai pu voir énormément de conneries depuis 2 semaines sur Facebook, et je pense qu'on n'a pas pris le temps chacun là, de se dire que non, effectivement, on peut pas brimer la liberté d'expression. Effectivement, on peut entendre des gens dire des conneries, et puis ils ont le droit de dire des conneries. Mais quand tu dis une connerie, tu en assumes la responsabilité. Et que la responsabilité, si c'est de te faire arrêter, eh ben c'est tant pis pour toi. Et puis si ça peut lui faire apprendre les bonnes manières de rester une petite nuit en prison, parce qu'il lui fera pas de mal, en tout cas ça fait moins de mal de rester une nuit en prison que de se faire tirer dessus, ben c'est sûr que le ça peut au moins, parce que je peux vous assurer que le lendemain que lui s'est fait arrêter, il y en avait plus beaucoup de commentaires.
Non, ça a déjà été une rate là.
Donc au moins ça a été une bonne affaire pour ça. Fait que... D'autres choses à rajouter?
Ben oui, en effet, là, tantôt, Samuel disait la liberté des uns s'arrête que celle des autres ouais. commence. Mais avec Facebook, parfois, tu sais, il y a des choses qu'on veut pas voir qui apparaissent dans notre mur parce qu'un autre a aimé ça. Moi, je donne par exemple une amie à moi qui est une amoureuse des animaux, puis que là, oups, soudainement, dans son Facebook, apparaît quelqu'un qui a liké de la maltraitance d'animal.
Ouais.
Mais elle est comme, oh non, je veux pas voir ça. Elle est hyper affectée par ça. Là, elle est rendue qu'elle a banni ces gens-là de son Facebook à cause d'un like. Mmh. Tu dis, c'est l'autre personne qui a aimé la vidéo, lui, trouvait une autre façon de voir ça, mais c'est là.
C'est une interprétation.
Elle, sa liberté s'est trouvée comme un peu brimée parce qu'elle a été imposée à voir ça. Puis ça l'avait vraiment chamboulé un peu. Fait que, tu sais, c'est ça, comment qu'on fait pour contrôler ça avec les réseaux sociaux présentement? C'est un peu difficile.
Ben, disons qu'on a créé un outil de communication incroyable. Le problème, c'est que ça affaiblit la capacité des gens à faire du jugement, parce que en fait le problème c'est ça, c'est que ce genre d'outil là atténue ton jugement en faisant le travail à ta place, et donc les gens aujourd'hui sont devenus comme des larves un peu là, puis des légumes devant cet outil là. Mes enfants ont regardé Wall-E en fin de semaine là. Puis quand tu regardes le Wall-E, le dessin animé là, c'est incroyable, c'est exactement ça, c'est qu'on est en train de devenir des zombies devant quelque chose, et on croit tout ce qui passe quoi finalement là. Donc voilà, fait que c'est ça. Puis je tenais juste à dire un petit truc aussi qui a aucun impact avec les technologies, mais les personnes qui sont mortes il y a 2 semaines ne sont pas des musulmans mais sont des Québécois.
Oui,
voilà. Oui. Parce qu'on mais entend oui. beaucoup dire qu'il y a des musulmans qui sont morts, mais
c'est leur origine.
Ce sont des Québécois.
C'est ça, leur origine, même pas.
Non, c'est leur religion.
C'est leur religion, fait que leur voilà. origine.
Donc je tenais juste à le dire.
Puis plus près de nous, c'est nos voisins, c'est nos collègues, ouais. c'est nos amis.
C'est nos professeurs, c'est nos épiciers du coin, c'est nos.
Exactement.
J'ai une collègue qui a été personnellement touchée dans son entourage par le drame. C'est épouvantable.
Ouais.
Tu sais, je vous entendais parler. Le problème, c'est que Facebook donne une tribune à tout le monde.
Ouais.
Donc, n'importe qui, et heureusement et malheureusement,
oui.
ça a un bon côté et chaque personne peut avoir son opinion.
Oui, parce que les élans de générosité, on les a vus aussi sur Facebook. Oui. On a vu aussi des messages d'espoir et tout ça. Donc, c'est aussi un bon outil. Mais je pense que c'est de l'éducation, c'est d'apprendre à l'utiliser et c'est de savoir comment on peut justement contrer ça, parce que je vous rappelle aussi, et d'ailleurs c'est drôle, parce qu'ils ont annoncé que Facebook et Google allaient augmenter le nombre de données le nombre d'ouvertures de données personnelles auprès des autorités pour vraiment accélérer le traitement des enquêtes policières par rapport à ça, ce qui n'était pas le cas avant. Google avait fermé les données. Là, Google ouvre toutes les données de personnelles pour les autorités. Donc, là, c'est sûr que maintenant, si tu dis une niaiserie, là, c'est chut.
Faut faire attention.
Exactement.
Puis même si je peux me permettre un très tordu lien avec le concours face aux dragons.
OK.
Qu'on va faire, ben oui, il s'en va avec ça, lui.
Ouais.
Mais je veux juste parler de quelque chose qui s'appelle la responsabilisation. Prendre la responsabilité de quelque chose, malheureusement, on a l'impression que ça se perd dans la société. J'en parle beaucoup avec des collègues parce que moi-même, parfois, je regarde mes étudiants, j'ai l'impression qu'ils se déresponsabilisent de beaucoup de trucs qui leur arrivent et c'est vu beaucoup au travers de mes collègues. Bon, là, je veux pas entrer sur un terrain glissant et demain me faire lancer des tomates.
Alors, apportez tous vos tomates à l'université.
Moi, j'allais dire, ou d'autres choses.
Ouais, c'est ça. Des pommes, ça fait plus mal.
La tomate, c'est soft, mais des briques,
ouais, c'est ça. Des œufs congelés.
C'est une autre histoire, donc je dirais pas ma marque de véhicule, pas qu'on crève mes pneus. Alors, ceci étant dit...
Lada Niva. Non, ça n'existe plus.
Exactement. Même c'est Gilles qui roule encore là-dedans. Je pense que c'est la seule personne au Québec. Mais bon, ce n'est pas une chronique automobile. Mais c'est ça, on assiste malheureusement à une déresponsabilisation des gens. Puis c'est ça qui est plate. Puis jusqu'à quel point... là, on va dire c'est pas de notre faute. On va regarder. Puis là, je veux pas recevoir des mauvais commentaires non plus. On sait qu'il y a certains contextes familiaux parfois qui peuvent être plus difficiles. Il y a certains facteurs... de l'environnement de l'individu et intrinsèquement, biologiquement aussi d'un individu qui font en sorte qu'il n'est pas nécessairement responsable de ses actes. On ne part pas le débat là-dessus, mais on assiste à une certaine déresponsabilisation des gens, puis il est temps que les individus se responsabilisent et se rendent compte de l'impact des gestes qu'ils posent dans leur environnement. D'où le lien que je vais faire avec le concours. Ce qu'on assiste également, c'est que on veut pas que ça devienne un concours où les jeunes entrepreneurs arrivent et disent « Vous allez me donner de l'argent parce que j'ai parti une entreprise. » Non, on ne donnera pas de l'argent parce que tu as parti une entreprise. Tu as une responsabilité en tant qu'entrepreneur de partir quelque chose, de répondre à un besoin. Qui va te donner de l'argent? Pourquoi de l'argent, ça ne tombe pas du ciel? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont les engagements que tu vas prendre? Est-ce que tu vas respecter ces engagements-là? Donc, lien tordu ici à faire, mais je pense qu'il y a un message là-dedans très important pour... les gens qui nous écoutent, c'est justement, il faut penser aussi à la responsabilité qu'on a nous-mêmes par rapport à nos actes, à nos paroles et à nos gestes qu'on pose, qui peuvent avoir
et
un
encore
impact.
Plus sur Internet parce que ça reste. Tout ça à reste fait. Très ouais. Longtemps.
Tout à fait. Donc, voilà.
Plutôt difficile d'effacer ces traces.
Exactement.
Hey, on est beaucoup dans la technologie et l'entrepreneuriat ce soir et ça changera pas. Après la pause, on va encore parler de technologie et d'entrepreneuriat parce que Samuel est arrivé avec des notes plutôt intéressantes. On va se faire une petite pause musicale. Et là, ben, je vais demander à JF de m'envoyer des choix, mais je pense que t'as pas vu mon message.
Non.
C'est pas grave, j'ai choisi.
C'est toi qui m'as harcelé.
Non, je t'ai juste envoyé un petit message. Hey, JF, tu vas entendre
non,
de
tu
quoi?
M'as choisi des chansons qui me
fait que
avec
je
moi.
Me suis choisi des chansons.
Oh, ça va sûrement être bon.
Je pense qu'on parlait de Aqua Barbie Girl.
C'est ça, exactement.
Oh,
exactement.
Ouais.
C'est ma tune.
Je vais mettre un peu de rock un peu plus progressif avec le groupe Tool, la chanson 46 and 2. Ensuite, un petit peu plus de brassage avec Godsmack. Donc restez là, on revient dans moins de 10 minutes. À tout de suite.
CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le génie bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles Acadieux, entre la route du président Kennedy et les galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15$ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Et pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens. 24 rue Charles Acadieux.
Vous voulez écourter ce concert matinal? Eh bien, commandez une des quatre trousses produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense d'Hydro-Québec. Obtenez une pomme de douche à débit réduit, un aérateur de robinet et un sablier qui limite les douches beaucoup, beaucoup trop longues.
Commandez votre trousse pour 18$ ou plus à hydroquebec.com et économisez jusqu'à 100$ sur votre facture d'électricité. Le programme prend fin le 28 février 2017. Un message d'Hydro-Québec.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
Les technopreneurs.
Et nous sommes de retour dans les technopreneurs, toujours en compagnie de mes co-animateurs Jean-François et Samuel. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, allez aimer la page Facebook. Depuis tantôt, Jean-François, il parle de nouvelles qu'il va partager. Je vais vous partager.
Ben, mais, ça y est, c'est partagé.
Mais c'est où qu'il partage ça?
Il partage sur Facebook.
C'est ça, face de book. Donc, recherchez les technopreneurs, vous allez facilement nous trouver. Puis pendant que vous y êtes, faites une petite recherche, CJMD96.9, un petit like là-bas aussi, ça l'encourage la station à promouvoir encore plus. Donc, c'est par là que ça se passe. Facebook, hein, on en a beaucoup parlé ce soir, donc ça fait encore partie du programme. Donc, les technopreneurs ce soir sont techno puis preneurs vraiment jusqu'au bout. Samuel est arrivé avec des notes justement de projets de recherche en entrepreneuriat technologique. J'espère que je me trompe pas trop. Je vais te laisser aller là-dessus. T'as de beau matériel intéressant. Nous, on va interagir avec toi.
Nous, on s'en va. Salut.
Ouais. Bye. On te laisse les commandes.
Bonne soirée.
Ton micro est ouvert. Tu peux faire ce que tu veux.
Donc, écoutez, puisque l'émission s'appelait Les Technopreneurs, je décide de parler d'un projet de recherche qu'on a ici à Lucar sur l'entrepreneuriat technologique. Donc, je trouvais que ça fitait très bien avec la thématique de l'émission. Premièrement, juste de parler un peu global, un peu de la structure dans laquelle ce projet est fait. À Lucar, on a un centre d'expertise universitaire voué au développement des organisations qu'on appelle le CEDO. C'est une mission de l'université à laquelle je crois beaucoup, c'est-à-dire de s'impliquer vraiment dans la collectivité dans laquelle on est. Donc, c'est un centre de recherche, mais qui est voué justement à aider les organisations, les entreprises, les organisations aussi sans but lucratif, donc tout ce qu'on entend par terme organisation, qui est dans spécifiquement Chaudière-Appalaches, mais qui peut aussi s'élargir à la grandeur du Québec. Donc, on fait plusieurs projets de recherche là-dedans, mais ce qui est agréable, c'est que ce sont des projets de recherche. Oui, ça prend de la recherche en sciences pures, ça va prendre de la recherche un petit peu plus, je vous dirais, générale, mais on fait plutôt des projets de recherche appliqués qui s'adressent aux entrepreneurs, aux organisations. Donc, on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans notre milieu, puis rendre service aux gens, puis faire avancer la science en même temps. Donc, c'est un peu une approche où tout le monde est gagnant. C'est un peu pour l'historique du centre et un projet de recherche auquel je participe, qui est l'entrepreneuriat technologique québécois. On pose la question à un phénomène comme les autres. Alors, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir, premièrement, c'est quoi l'entrepreneuriat technologique et c'est quoi l'entrepreneuriat tout court. Tu sais, je vous avais parlé dans le concours, qu'est-ce qui est important, c'est que la personne démontre qu'elle a cerné un besoin. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'en entrepreneuriat, dans le fond, on dit que c'est un champ de recherche qui s'intéresse surtout à la découverte et à l'exploration d'opportunités qui sont profitables. Donc, c'est justement de se questionner sur notre environnement, de regarder ce qui se passe, mais de dire, y a-t-il des opportunités, y a-t-il des besoins qui sont pas remplis, ou à l'inverse, est-ce qu'on est capable de créer des besoins? Mais regardez devant vous, on a tous un téléphone intelligent, on a tous une tablette. Il y a 20 ans, parler sur FaceTime et voir la personne en face de nous, on voyait ça dans Retour vers le futur, mais on voyait pas ça ailleurs. Et tu sais, c'était pas un besoin qu'on a. Envoyer un message texte, c'était pas un besoin criant. Aller sur Facebook, c'est pas un besoin criant. Donc là, c'était vraiment de créer des besoins. Mais ces besoins-là ont été créés comment? En observant l'entour de nous, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on interagit? Puis comment bien cerner les besoins? On parlait aussi à la pause, c'est pour faire un gros wrap-up sur la soirée, là, on parlait de Trump. Trump, je cautionne pas personnellement ce qu'il fait. On va simplement lui donner un crédit pour ce qu'il est. C'est d'abord et avant tout un entrepreneur.
Oui,
et Trump a cerné un besoin d'une partie de sa population. Malheureusement, c'est un besoin qui a divisé le pays, qui divise présentement le monde, dont on ne connaît pas les impacts.
Mais c'est un besoin pareil.
Mais c'est un besoin. Donc, il a réussi à cerner un besoin de la population et une façon de répondre à ce besoin-là. Un besoin qu'on peut voir sous différentes facettes. Est-ce un désabus, etc.? Mais c'était quand même un besoin. Il a mis le doigt dessus. Il a été élu. C'est pas pour rien. C'est qu'il est allé toucher une corde sensible. Mais si on veut bien comprendre l'entrepreneuriat, à quelque part, c'est ça. C'est de toucher la corde sensible de la population. Donc, pour en revenir à notre projet de recherche, qui est sur l'entrepreneuriat technologique, ben si on y va spécifiquement sur l'entrepreneuriat technologique, c'est justement de trouver des solutions, qu'on va dire, originales, innovantes, pour répondre à des nouveaux besoins, des besoins préalablement identifiés. Donc, c'est créer une nouvelle technologie. Puis par nouvelle technologie, là, on n'entend pas nécessairement un logiciel, un ordinateur, un site web, là. Ça peut être une technologie mécanique, ça peut être... Par exemple, je parle des bras mécaniques, peu importe. Donc,
c'est de l'innovation, quoi.
C'est de l'innovation. Donc, puis l'innovation, c'est assez vaste comme champ d'expertise. Donc, ce qu'on veut faire, en réalité, c'est comprendre l'entrepreneur technologique. Comprendre, premièrement, c'est qui. Tu sais, qui est l'entrepreneur technologique, puis dans quel univers il fonctionne. Parce que qui dit technologie, ben c'est du nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît pas nécessairement. Exactement. Donc il y a un côté incertitude. C'est un processus entrepreneurial qu'on va dire qui est moins linéaire. Donc c'est pas une ligne directrice, c'est une ligne où il va y avoir beaucoup d'essais erreurs. C'est pas totalement prévisible. Donc tu sais c'est et aussi c'est très important parce que quand on parle d'entrepreneuriat technologique, nouvelle technologie, on parle de société, tantôt on entendait parler de la Silicon Valley, ben ce sont des entreprises qui fonctionnent dans l'entrepreneuriat technologique. Et ce sont des entreprises sur lesquelles on s'appuie beaucoup pour le développement économique futur et qui ont une importance capitale dans le développement économique. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'on veut faire, c'est justement aller voir des entrepreneurs. On se déplace. On parle de l'entrepreneur. On veut comprendre, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il a eu l'idée? D'où lui est venue son idée? C'est quoi son processus un peu d'observation? Pour lui, c'est quoi qui est important? Comment est-ce qu'on réussit dans un projet entrepreneurial comme ça? L'autre point, c'est vraiment, bon, il y a l'idée, il y a le développement par la suite de l'idée. Comment il a développé son idée? Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte, comment est-ce qu'il a pu passer de l'étape, c'était dans sa tête, c'est allé sur une feuille de papier, par la suite, il a construit quelque chose, il a bâti son idée, il l'a développé, il a fait un prototype, et pour finalement s'en aller vers tout le volet, bon, c'est bien beau le bâtir un prototype, mais on veut ultimement, bon, créer de la richesse, donc commercialiser, puis créer de la recherche. Il ne faut pas juste voir le côté capitaliste de ça, il faut voir aussi le côté de
qu'est-ce que ça peut apporter.
Ça peut être une innovation qui apporte au niveau du bien-être de la population. Donc, comment est-ce que ça a été commercialisé, tout ça? Donc, c'est un peu ça. On veut comprendre ses ressources. On veut qu'il fasse une certaine rétroaction aussi sur, son expérience. Qu'est-ce qu'il a développé? Donc, je me suis dit que ça vous intéresserait
c'est
peut-être.
C'est super intéressant. Moi, je pense que... Est-ce que tu connais la série Silicon Valley?
Non, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour écouter toutes les séries que j'aimerais écouter.
Non, mais arrête d'aller à l'université. Écoute ça, tu vas voir, c'est merveilleux.
C'est la meilleure université. Non,
mais honnêtement, c'est parce que ça représente exactement
c'est,
ça.
C'est des émissions de 25 minutes. Tu peux avoir le temps de les écouter.
Et honnêtement, non, mais c'est parce que je pense à ça, parce qu'on en a déjà parlé ici.
Ben oui, moi, je l'ai
écouté. C'est exactement ça. C'est vite fait, là, c'est un petit groupe de développeurs en Californie qui, effectivement... développe une application. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que des fois, on en oublie le besoin. Et en fait, c'est justement ça, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la majorité des applications qui sont développées aux États-Unis, ils s'en foutent complètement du besoin. En fait, ils se rendent compte que le but dans tout ça, c'est d'avoir des investisseurs qui amènent des actions, qui amènent du développement, mais qui amènent de l'argent, mais qui, tu sais, et que finalement, c'est vraiment drôle, c'est à mourir de rire, je te dis, là, c'est, et on se rend compte que finalement, au bout du compte, le besoin, les investisseurs, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, t'as-tu une application, là? T'as-tu
quelque chose?
Parce que c'est ça, la tendance et tout ça. Donc, je trouve ça pertinent parce que ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'il faut pas. Puis moi, je le dis souvent à des gens que je côtoie qui sont dans le domaine du web, là. Oublie pas que t'es une entreprise. Tu sais, oublie pas que, oui, c'est le fun de développer une application. Oui, c'est le fun de développer des sites web et tout ça. Mais y a-tu réellement, effectivement, un besoin? Puis, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire, effectivement.
Tu sais, il y a un côté durable aussi à l'application. Si je fais du pouce sur la série dont tu me parles, bon, mais qui ici a encore Pokémon Go et joue à tous les jours? Ça a été un buzz au début de l'année.
Non, moi, j'ai joué 2 semaines, comme tout le monde.
Exactement. Donc, ça a été un buzz, mais ça a été très profitable pendant le temps que ça a duré.
Alors que les outils comme Facebook ou quoi, ben, on les utilise tous les jours, effectivement.
Exactement. Ben, en fait, c'est ça.
C'est très intéressant, effectivement.
Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de comprendre l'entrepreneur technologique. Puis, veut pas, c'est une façon aussi, tu sais, on voit le milieu manufacturier. Bon, des fois, c'est plus difficile. Il y a subit les soubresauts de l'économie. Secteur tertiaire, bon an, mal an, c'est relativement stable. Là, je veux pas faire sourciller les économistes à l'écoute. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, mais on mise beaucoup sur le secteur tertiaire ici au Québec, puis dans à peu près toutes les sociétés occidentales, ben, ça en fait partie du secteur tertiaire. Donc, faut le comprendre, faut savoir son rôle, nos facteurs de succès pour justement venir éventuellement ce qu'on fait, comme avec un concours... avec les dragons, ce qu'on veut, c'est aider les entrepreneurs. On veut favoriser l'entrepreneuriat. On veut aider les gens qui ont des idées. Puis c'est des concours comme ça, c'est à la suite de projets de recherche, c'est à la suite d'initiatives où on a compris que où sont les besoins, où sont les facteurs clés de succès. On veut aider les gens.
Ah ben c'est cool. C'est très intéressant.
Comment vous arrivez à rejoindre ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là?
Ça, c'est toujours la partie un petit peu plus difficile. Donc, sélectionne, tu sais, il y a une certaine sélection d'entreprises, parfois aléatoire, parfois...
Vous faites un appel, on recherche tel type d'entreprise.
Exactement. Puis... Donc, c'est ça. Donc, notre but, c'est vraiment que ça soit le plus neutre possible pour avoir vraiment le pouls d'une grande panoplie d'entrepreneurs, peu importe son milieu, peu importe où est-ce qu'il est, comprendre sa réalité, puis essayer de voir, bon, l'entrepreneur technologique en tant que tel, c'est qui? Peut-être qu'on ne sera jamais capable de mettre le doigt sur c'est qui puis de faire un portrait type. Mais on veut au moins faire une tentative de dire c'est qui, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses facteurs de succès, comment il développe ses idées. T'sais, comment tu développes ton idée, c'est pas toujours évident.
Non, c'est important. Ouais.
On peut pas dire à un créateur, fait 40 heures semaine dans un bureau de 8 à 5, puis crée de 8 à 5, le reste du temps, tu feras ce que tu veux.
Tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que les entrepreneurs et les gens en général voient le succès sous forme de résultats, mais ils voient pas ce qu'il y a en arrière. Et tu sais qu'aujourd'hui, les gens que je vois se lancer dans le domaine du web voient le côté facile, le côté bling-bling, le côté réussite de Facebook ou peu importe. Ils voient pas le travail qu'il y a en arrière de ça. Ils voient pas l'innovation, ils voient pas la recherche, ils voient pas le besoin. Ils voient pas forcément aussi toutes les étapes qui doivent être entreprises. Et souvent, c'est un phénomène de société, je pense, ça. C'est que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat même parce qu'on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que tout le monde peut y réussir parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est que tout le monde peut réussir, tu comprends?
C'est vrai.
Et donc, aujourd'hui, dans le domaine technologie, c'est vraiment ça. C'est que tout le monde veut créer sa propre distinction, sa propre app, son propre petit succès. Parce que c'est vrai que Airbnb, Facebook ou autres sont partis de rien. Mais ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais c'est pas parti de rien. T'sais, je veux dire, c'est pas vrai. Les Américains sont beaucoup plus complexes que ça, que tout simplement dire c'est parti d'un garage. Oui, Apple est parti d'un garage. Mais faut voir le garage aussi. Tu sais, je veux dire, moi, je partirais une entreprise innovante de mon garage. Ça n'aurait pas la même gueule que le garage de Steve Jobs. Là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, je pense, qui est important dans vos recherches. C'est de faire comprendre que c'est une structure, c'est une mécanique qui fait en sorte que ça réussit et ça marche. C'est pas simplement en faisant quelque chose sur le web qu'on dit, oh bah tiens, tout d'un coup, parce que sinon, on serait toutes milliardaires. Tu sais, je veux dire, c'est...
Exactement.
Donc, non, je pense que c'est très pertinent d'avoir une recherche de même. Puis, c'est-tu quelque chose d'unique au Québec ou ça existe dans d'autres universités, ce genre de centre de recherche?
Écoute, il y a des centres de recherche.
En tout cas, je veux dire, le programme, en tout cas, de ce programme-là.
Ce programme-là, tout projet de recherche a un caractère unique. T'sais, il faut qu'il y ait un certain caractère unique. Je dirais pas qu'il y a personne qui s'est penché sur l'entrepreneuriat technologique. Il y a énormément de chercheurs qui se penchent là-dessus. Mais sur le volet de vraiment... Le côté innovant, là, c'est vraiment, on prend des cas d'entreprise, on regarde l'entreprise, même on demande à l'entreprise, on lui dit, écoute, tes données, on veut pas qu'elles soient confidentielles, on veut prendre ton cas puis en faire des cas de figure. Tu sais, c'est pas une recherche qui suit le pattern de recherche traditionnel qu'on fait ici. Donc, s'il y a des puristes en recherche, on s'excuse à l'avance. On veut vraiment nous-mêmes être innovants dans notre approche de recherche pour le mieux avoir certains cas de figure, mieux comprendre, mieux analyser l'entrepreneur sur un angle qui est moins classique en recherche, un peu moins rigide même aussi.
Ah oui, je comprends.
Puis, juste de revenir sur ce que tu as dit qui était vraiment important, je reviens sur « business is learned by doing ». Donc, c'est en faisant des affaires, c'est en faisant l'entrepreneuriat qu'on apprend. C'est par nos erreurs qu'on apprend. Les entrepreneurs vont vous le dire, ils sont à peu près tous plantés. Un entrepreneur qui ne se plante pas, c'est pas tu peux toi-même en parler, tu as une business, c'est sûr que tu t'es planté un jour ou une autre.
On apprend en se plantant un peu. Mm. On apprend de ça, du moins, quand on tombe. Si on n'apprend pas puis on fait la même erreur, ben go, on n'est pas à bonne place.
Mais tous, on le voit tous. Sauf que c'est sûr que, puis moi c'est ce que je dis souvent aux gens, quand on voit les entreprises qui viennent de Californie ou les grosses boîtes, tu sais, ils ont souvent tendance à montrer le côté, justement, vedette, bling-bling et tout ça, mais c'est une apparence. Puis c'est du fantasme que les Américains commercialisent beaucoup, depuis longtemps, tu sais. Donc, mais c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que moi, je le vois souvent, des gens s'emballent très vite, dépensent beaucoup d'argent, et finalement, le besoin, effectivement, n'est pas là. Tu sais, quand tu m'arrives et tu dis, ah, j'aimerais ça créer un agenda, il y a déjà des agendas. Tu sais, je veux dire, c'est pas un besoin. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre là, que ça.
Nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui ont, mettons, créer un site web, disent les gens vont s'inscrire, vont payer 500 $. Pardon, je suis pas sûr que les gens vont s'inscrire puis payer 500 $. Tu sais, il faut que tu aies quelque chose à leur offrir.
Exactement.
Là. C'est la pensée magique.
Donne quelque chose un peu pour.
Oui, puis il faut que ce soit innovant. Airbnb, c'est arrivé pile au moment du besoin et aujourd'hui, ils surfent sur cette vague-là. Mais regarde bien. Quand on arrive dans cette situation-là, ils disent tout le temps, oui, ils ont libéralisé, ils ont démocratisé le système. Qu'est-ce qu'ils font Airbnb maintenant? Ils achètent des complexes hôteliers. Ils vont devenir des propriétaires terriens. Ils n'ont plus besoin de cette application-là pour devenir riches. Ils ont fait le buzz avec l'application. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de racheter toutes les compagnies hôtelières avec l'argent qu'ils ont pour créer le même principe qu'avant. En fait, c'est tout cet aspect-là. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet d'étude, puis on en est au début de l'ère technologique. Donc, je pense que c'est en ce moment, effectivement, qu'on doit réfléchir sur cet avenir-là de qui on est, puis c'est quoi notre ADN numérique, finalement, parce que c'est ça dont on parle. Hein. On devient des humains maintenant qui avons besoin de travailler avec tout ça plutôt que de s'y opposer. Quoi.
Oui, tout à fait. Tu avais aussi tantôt, tu me mentionnais que tu faisais en collaboration avec d'autres organismes à Lévis. C'était-tu dans le cadre de ce...
Oui, je vais faire une petite pub dans tant qu'être ici.
Ben oui.
Tout simplement pour dire qu'avec la Chambre de commerce de Lévis, on organise au mois d'avril un colloque justement pour rendre un peu plus disponible toute la recherche, tout ce qui se fait à l'UQAR Campus Lévis, qu'on puisse échanger sur des problématiques du milieu, démontrer bon qu'est-ce que nous on fait, puis aussi écouter ce que les entrepreneurs, ce que les gens d'affaires de Lévis ont à dire sur justement leur milieu, leurs organisations. On veut créer un lieu d'échange aussi par rapport à ça. Donc ça va se passer au mois d'avril. C'est dans la programmation de la Chambre de commerce de Lévis. La date exacte m'échappe, mais je vous invite à aller voir.
Je vais aller partager directement.
Oui, puis on risque fort bien d'en parler. On parle de temps en temps des activités de la Chambre de commerce à venir. J'avais justement voulu en parler aujourd'hui, mais c'est plutôt dans 2-3 semaines des prochaines activités. Donc on va prendre en note celle du colloque. Donc comme tu dis, c'est annoncé dans la programmation de la Chambre de commerce.
Tout à fait.
Super. Hey, l'émission tire bientôt à sa fin déjà, ça va vite.
Ben oui.
Quand c'est intéressant. Je t'avais coupé, JF.
Oui, hein?
Faut bien que j'en profite une fois de temps en temps.
on me baïonne, ça y est, je parle de politique, ça y est, tout le monde...
Et voilà, je coupe ton micro. Mais non. Et merci d'avoir été avec nous ce soir, Samuel, c'était très intéressant. J'espère que les auditeurs en ont profité autant.
Donc, ça fait un plaisir, merci pour l'invitation.
C'est un plaisir, puis si dans le futur, tu as d'autres choses intéressantes à nous partager... je te lance une invitation ouverte si ça te tente de venir faire un tour, t'as de quoi d'intérêt. Les technopreneurs, c'est un peu ça aussi. On ouvre la porte à tous ceux qui veulent bien venir partager le micro. Toi, t'es bien à l'aise avec ça, donc c'est intéressant.
Et d'inviter les étudiants de l'université à écouter la radio de Lévis.
Ouais, oui, la radio communautaire à Lévis. On a un beau poste, là, on est en plein essor, donc c'est très intéressant ce qui s'en vient à venir. Donc, la semaine prochaine, on reçoit notre plus jeune invité. T'avais-tu regardé un peu la cédule, mise à jour?
Ouais.
Samuel Castonguay, participant cette année. Donc, lui, a un projet de fête d'enfants au concept un peu à double tour. Connaissez-vous à double tour à Québec?
Oui, c'est que t'enfermes des enfants à double tour.
Non, t'enfermes pas des enfants, mais t'es enfermé à double tour durant une heure et tu dois trouver la solution pour sortir. Donc, j'ai hâte de voir ce que Simon proposera comme projet. C'est un étudiant là, qui présente pour la première fois, j'imagine, vu son jeune âge. Donc, projet de fête d'enfants. De fête d'enfants à concept double tour. Donc, j'ai bien hâte de voir.
Ça va être freak, ça, là. Concept de fête d'enfants à double tour.
Ouais. Ben non, mais faut pas penser au côté freak de la double tour. C'est pas si à double tour. C'est pas si freak que ça.
Non, je
sais. C'est échappé d'une prison.
Je sais pas, il me semble, moi, mon fils, je ferme la lumière, il s'en va en courant. Fait que,
non, mais j'ai hâte de voir. Son concept devrait être beaucoup. Plus à l'image des enfants, et amusant et non pas...
Ouais, ce sera pas genre, vous allez mourir.
Non, c'est ça, ce sera pas comme Alice au pays de l'horreur ou des trucs comme ça.
Et c'est drôle ça, que ça marche bien, ce système-là, la fois que j'essaye ça à un moment donné.
Non, en effet. Hey, pour la fin de l'émission, j'ai pris une petite sélection pour toi, JF, du Nirvana.
Oh, alors là, c'est incroyable.
Bon vieux Nirvana, mais là, j'y vais avec leur reprise de David Bowie, dont vous devinez laquelle. The Man Who Sold the World en acoustique Unplugged.
Ah, c'est
New York.
Ça, ouais, mais c'est ça, l'Unplugged.
C'est ça, la version Unplugged. Donc
la vraie version.
La vraie version.
La meilleure de Nirvana.
Ah, oui, avec la run de base, moi, là-dedans. Là, moi, ma blonde, on en parle tout le temps. Là, ça joue le doum, 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 doum. Donc, on vous laisse là-dessus. Vous étiez à l'antenne de CJMD 96.9 dans l'émission Les Technopreneurs. Donc, Louis Seb, JF et Samuel qui vous dit bonne fin de soirée. Bye bye.
Salut.
Bonne fin de soirée. I roamed, I gazed, stared.